Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Andy Roche.
À la une, cet objectif du gouvernement, faire plier les grévistes. Ceux d'ExxonMobil sont sur le point d'être réquisitionnés. Deux raffineries concernées, Fos-sur-Mer et Gravenchon près du Havre, où notre reporter européen a rencontré des représentants syndicaux furieux. La CGT dénonce une entrave au droit de grève. Conséquence, la mobilisation est en train de s'étendre. Donge, deuxième raffinerie de France, jusqu'ici en retrait, vote ce matin la grève. Et puis de nouvelles frappe hier en Ukraine où la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Résultat, Paris renforce sa présence militaire à l'est de l'OTAN en envoyant notamment en Roumanie le fleuron de la cavalerie française, le char Leclerc. Les détails de cette opération dans ce journal-là. Journal présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Et vous, combien de temps avez-vous attendu avant de pouvoir faire le plein? Sans doute longtemps si vous vous trouvez dans les Hauts-de-France et en région parisienne. La pénurie de carburant se poursuit face à cette situation qui devient insupportable. Elisabeth Borne dégaine la réquisition du personnel d'Esso ExxonMobil. Pourquoi là-bas? Eh bien parce que contrairement à Total, un accord a été trouvé entre les deux syndicats majoritaires et la direction. Réquisition qui vise les sites de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et Gravenchon en Seine-Maritime où Guillaume Dominguez s'est rendu pour Europe 1.
L'annonce de la Première Ministre a avant tout surpris ici. Ce que m'expliquaient les syndicats, c'est que des réquisitions préfectorales dans le cadre d'un mouvement de grève, ça n'est pas nouveau, mais en général, elles concernent des tâches de maintenance. Par exemple, ici à Notre-Dame de Gravenchon, la raffinerie est un site Céveso, donc les grévistes se relaient toutes les 8 heures depuis le début du mouvement sur demande du préfet pour assurer la sécurité du site. Mais jamais ces ordres de mission ne sont allés à l'encontre du droit de grève selon les syndicats. Pour Pierre-Antoine Aubert, délégué général de Force Ouvrière, c'est du jamais vu depuis 40 ans.
Le personnel est déjà requis, donc en fait on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire de plus en termes de réquisition. Ils ne vont pas mettre quelqu'un derrière son dos pour aller tourner une vanne. Donc on est très surpris de cette annonce et on ne sait pas comment ça se passe.
Pour l'heure, les syndicats ne savent donc tout simplement pas comment réagir. L'un des représentants m'a confié qu'ils attendent les retours de leurs avocats pour connaître les recours possibles. La loi, elle, énonce que tout gréviste qui refuserait une réquisition s'expose à 6 mois d'emprisonnement et à 10 000 euros d'amende.
Guillaume Dominguez, une manifestation a également eu lieu hier devant les grilles de la raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie. Manifestation de 150 à 200 salariés non grévistes pour reprendre le travail.
Réquisitionner le personnel, ce n'est pas une première. En revanche, c'est un geste politique significatif, c'est la manière forte.
Oui, c'est aussi risqué en raison du calendrier politique, mais l'exécutif Jacques Seret veut à tout prix reprendre le contrôle de la situation.
Oui, en apparence, hors de question pour Emmanuel Macron de laisser prospérer cette crise, car vendredi dernier, il y a 5 jours, le chef de l'État déclarait déjà que le gouvernement était pleinement mobilisé. « Je sais l'inquiétude qu'il y a chez beaucoup de nos compatriotes », expliquait alors le locataire de l'Élysée depuis Prague. Mais depuis, rien n'a changé. Pire, la situation s'est même aggravée par endroits. Manque d'anticipation, erreur d'appréciation dans la prise en considération de cette crise. Le constat est sans appel. Aujourd'hui, Emmanuel Macron renvoie la balle vers Elisabeth Borne. C'est elle qui est chargée de monter au front et d'annoncer des réquisitions. Cela en essayant de ne pas trop heurter les sensibilités de gauche attachées au droit de grève. La réquisition des personnels ne concernera donc que les dépôts Esso, mais pas ceux de Total, où l'exécutif veut encore laisser le temps au dialogue social. Et pour cause, à 4 jours de la manifestation contre la vie chère initiée par la nouvelle alliance de gauche qui réclame la taxation des super-profits, il s'agit pour l'exécutif d'essayer de ne pas aggraver le climat social. À ce rythme, le retour à la normale n'est donc pas pour tout de suite.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1 et en solidarité aux grévistes d'Esso ExxonMobil. La mobilisation doit s'étendre ce matin à la raffinerie Total de Donge en Loire-Atlantique, la deuxième de France. Écoutez Fabien Privé-Saint-Lanne, secrétaire CGT du site.
C'est une atteinte au droit de grève constitutionnel. Donc aujourd'hui, il est inacceptable de voir nos collègues encadrés par les forces de l'ordre pour aller travailler alors qu'ils se déclarent grévistes. Surtout qu'il ne me semble pas vraiment étouffé par la cohérence, ce gouvernement, puisqu'il disait préalablement, il y a encore quelques jours, ne pas vouloir s'immiscer dans l'entreprise et dans les discussions entre employeurs et organisations syndicales. Et aujourd'hui, il envoie la force publique pour faire travailler les grévistes. Nous demanderons aux salariés de ne plus effectuer de chargement, déchargement de camions, de pipes, de bateaux, plus aucune expédition. Donc concrètement, moment, plus rien ne sortira de la raffinerie, que ce gouvernement recouvre la raison et respecte le droit de grève des travailleurs, et d'autre part, que la direction générale de Total se mette autour de la table, autour des discussions concernant les salaires, l'emploi et l'investissement.
Fabien Privé-Saint-Lannes, joint pour Europe 1 par Caroline Baudry, main tendue de Total à ses salariés. Le pétrolier convie cet après-midi les syndicats non grévistes à une réunion de concertation et d'échange.
Avec cette pénurie qui dure, bien sûr, certains veulent en profiter, parfois illégalement.
Oui, cinq hommes âgés de 19 à 22 ans ont été interpellés et placés en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi dans le Val-de-Marne pour vente à la sauvette, fait savoir le parquet de Créteil. L'un d'eux proposait notamment de l'essence à 3,50 € le litre. Un vol a aussi eu lieu ce week-end à l'hôpital d'Argenteuil en région parisienne où les réservoirs de 7 véhicules de soignants ont été siphonnés.
Europe 1 5h06, le G7 promet de demander des comptes à Vladimir Poutine.
Une déclaration à l'issue d'une réunion hier après-midi avec la participation de Volodymyr Zelensky au lendemain de multiples bombardements sur l'Ukraine qui ont fait au moins 19 morts et 105 blessés.
Autre réaction cette fois-ci de la part de la France. Paris va renforcer sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN.
Décision prise lundi soir, mais annoncée hier. Des avions Rafale en Lituanie, une compagnie d'infanterie légère en Estonie, des blindés en Roumanie, mais aussi un escadron de chars Leclerc. William Molinier, c'est une sacrée organisation pour l'armée de terre.
Oui, il s'agit d'une douzaine de chars Leclerc à acheminer jusqu'à Tchinkou, au centre de la Roumanie. Un char très mobile, l'un des plus performants au monde, fleuron de la cavalerie française. Selon nos informations, les logisticiens de l'armée de terre s'y préparent depuis plusieurs semaines maintenant. 60 tonnes d'acier et de blindage, impossible de les faire rentrer dans des avions de transport type A400M ou Antonov. Reste l'option du train ou de la route, 8 à 12 jours selon nos informations pour la première option, 16 jours par la voie ferrée, non sans avoir obtenu au préalable les autorisations de tous les pays traversés, y compris pour les pièces de maintenance et le personnel afférent. Le ratio est de l'ordre d'un logisticien pour 3 à 4 combattants à Tchinkou. Une base militaire est en construction. Elle doit permettre d'accueillir plusieurs milliers de militaires interalliés au niveau de la brigade. C'est jusqu'à 6 fois plus que le nombre de forces de l'Alliance déployées aujourd'hui dans le pays.
Merci William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.
Et il sera d'ailleurs question de la guerre en Ukraine ce soir sur France 2, puisqu'Emmanuel Macron est l'invité de la nouvelle émission de la chaîne.
Ça s'appelle l'événement. Ce soir, c'est la première partie consacrée aux questions internationales. Deuxième volet déjà prévu le 26 octobre, cette fois-ci pour parler de politique intérieure.
La réforme de l'assurance chômage, Alban, elle est adoptée.
Oui, feu vert des députés hier à 303 voix pour, 249 contre. La majorité a pu compter sur le soutien des Républicains pour faire passer le projet de loi qui prévoit notamment la possibilité de baisser les allocations chômage quand le marché du travail se porte bien et de les augmenter dans le cas contraire.
Vous l'avez sûrement remarqué, si vous êtes propriétaire au moment de payer votre taxe foncière, eh bien elle a augmenté.
Plus 4,7% en moyenne cette année dans les 200 plus grandes villes françaises. C'est ce que nous apprend ce matin l'Observatoire national des taxes foncières et l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Elle a même totalement explosé dans certaines communes. 23,9% à Poissy, dans les Yvelines, 19% à Martigues ou encore 12,6% à Strasbourg.
Il paraît que vous voulez nous emmener au théâtre pour finir, Alban.
Avec plaisir. Direction le théâtre de l'Atelier à Paris pour applaudir Agnès Jaoui, femme la plus récompensée au César avec 6 statuettes au total. Alors pour une fois, ce n'est pas en tant qu'actrice qu'on vient la voir, mais en tant que chanteuse lyrique. Elle propose Dans mon salon un spectacle musical que l'on peut définir avec deux mots, populaire et festif. Marie Jiquel.
Lumière tamisée, tapis, canapé, verre de vin pas loin, au milieu de cet orchestre décontracté, la figure solaire d'Agnès Jaoui, formée au chant lyrique dans sa jeunesse.
Avant, j'avais un peu scrupule, parce que c'est pas mon métier principal et que j'ai énormément d'admiration et de respect pour les chanteuses et les chanteurs qui ne font que ça, parce que je sais quel sacerdoce c'est, donc je me sentais un tout petit peu gênée. Et maintenant, je me sens moins gênée. Notamment aussi parce que, justement, ça n'est pas qu'un spectacle lyrique, c'est mélangé.
L'actrice et chanteuse a opté pour une programmation éclectique, des mélodies jazzy d'Amérique latine à des airs de musique classique de Rossini ou Bach.
Je trouve souvent que dans la musique classique, il y a justement un sérieux, des codes, il faut applaudir là mais pas là, on ne sait jamais très bien. Enfin, et ça peut éloigner un certain public de la beauté de la musique.
L'alchimie entre la scène et le public opère, on peut danser et chanter en étant sûr de ne pas déranger les voisins.
Marie Jiquel dans mon salon avec Agnès Jaoui prendra ensuite la direction de Grande-Synthe, Franconville, Antibes ou encore Vitré.
Vous chantez aussi bien que ça, vous, Alban?
Clairement pas.
C'est un métier. Hein. Merci, Alban Leprince. 5h10 sur Europe.
Et on passe au journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour.
Bonjour, Ombline. Bonjour, Alexandre.
Bonjour, Dimitri. À tous.
Football, pour commencer, Dimitri, et cette drôle de soirée hier en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain.
Oui, avec le nom de Kylian Mbappé sur toutes les lèvres. Tout d'abord en avant-match, avec cette information qu'Europe 1 vous confirmait dès hier. Kylian Mbappé souhaiterait quitter le club de la capitale, a-t-on appris d'une source proche du joueur. De quoi planter le décor à quelques heures du coup d'envoi du match de Ligue des Champions PSG-Benfica. En bord de pelouse, le directeur sportif parisien Luis Campos désamorce.
Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé de partir en janvier. C'est pour ça que je suis là. C'est pour démentir et dire clairement que jamais Kylian Mbappé m'a parlé, ni à moi, ni au président, de partir du PSG en janvier.
Luis Campos au micro de nos confrères de Canal+. Le match débute et Mbappé prend une nouvelle fois toute la lumière de la ville parisienne.
Kylian Mbappé qui va s'élancer de son pied droit, la frappe de contre-pied, la but !
Un but sur pénalty qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe, avec 31 réalisations. Mais ce ne sera pas suffisant puisque les Parisiens, en manque d'inspiration, ont concédé le nul face aux Lisboètes. Un but partout. Bref, une drôle de soirée bien animée par Mbappé. Et Paris loupe donc l'occasion de se qualifier en huitième de finale, puisque de son côté, le Maccabi Haïfa a battu la Juventus 2-0. Mais ce n'est que partie remise la semaine prochaine.
Les autres résultats de la soirée en Ligue des Champions, Dimitri?
Eh bien, Chelsea s'impose 2-0 face à l'AC Milan. Le tenant du titre madrilène a arraché le nul dans les dernières minutes face à Donetsk, un but partout. Et même score en Allemagne où Dortmund et le FC Séville n'ont pas réussi à se départager.
Suite de la compétition aujourd'hui et notamment pour les Marseillais.
Et oui, ils se déplacent à 21h sur la pelouse du Sporting Portugal. Après leur victoire la semaine dernière, l'objectif pour l'Olympique de Marseille est d'enchaîner pour espérer garder tout espoir de qualification, comme l'explique l'entraîneur Igor Tudor.
Oui, il y a trois finales à jouer, mais pas que pour nous, pour toutes les équipes du groupe. Bien sûr, on est un petit peu derrière, on a seulement trois points, mais je pense que tout est possible. Les quatre équipes y croient pour l'instant et veulent se qualifier.
Marseille Sporting Portugal, un match à suivre à 21h dans Europe 1 Sport.
Et enfin, on termine ce journal des sports par du cyclisme.
Et oui, puisque les mondiaux de cyclisme sur piste débutent aujourd'hui au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, à l'endroit même où auront lieu les épreuves olympiques en 2024. Pour l'entraîneur de l'équipe de France de sprint Grégory Bauger, même si les mondiaux sont une étape importante, l'objectif numéro 1, c'est bien les Jeux Olympiques.
C'est d'abord les Jeux Olympiques et après le championnat du monde à domicile est un point d'étape important, c'est même le seul objectif de l'année, hein. Donc ça ils le savent, mais ce qui va être important c'est de voir comment ils vont se comporter et derrière voir ce qu'on peut rectifier pour être prêt justement pour 2024.
Un rendez-vous pour ce test grandeur nature, donc à partir de 18h aujourd'hui.
Dimitri Vernet pour les sports, merci. 5h13, on passe aux courses et le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin et mon pari gagnant sera le 509 Gendréen. Titulaire de 7 victoires lors de ses 8 dernières sorties, voilà un trotteur qui ne cesse de repousser ses limites, quel que soit le parcours proposé. Lauréat avec désinvolture l'été dernier sur le tracé qui nous intéresse, il trouve une nouvelle fois un lot largement à sa portée pour engranger un nouveau succès. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 9, Gendréen.
Merci Thierry Léger, on découvrira vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1. Très bon réveil à tous, 5h14, à suivre l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Si vous êtes fan de séries Netflix, eh bien vous n'avez encore rien vu. Un couple a poussé sa passion très très loin. A tout de suite.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Bonjour à tous, bon réveil, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Et avec un nouveau couple pour enrichir votre galerie de personnages épicés, étonnants.
Ah bah vous savez que je les aime, hein. Ce matin c'est avec une famille pleine d'imagination que je vous propose de faire connaissance. Et décidément les séries Netflix développent l'imagination. La semaine dernière, je vous en parlais, la série Dahmer nous a permis de découvrir un collectionneur vraiment flippant. Et bien aujourd'hui c'est une famille qui aime se faire frissonner. Est-ce que vous reconnaissez ce célèbre générique?
Ah, direct.
première seconde.
Ah bah oui. Première note.
Vous êtes deux grands fans, hein, je crois.
Deux grands fans amateurs. Oui, amateurs. Stranger Things. Oui.
Bravo, Alexandre. Stranger Things. Donc vous faites partie, vous, de ceux qui ont aimé la série, série de tous les records. Hein. Stranger Things, 287 millions d'heures de visionnage. Ouf. Juste pour la saison 4. Hein. La série numéro 1 dans 83 pays. Vous allez donc comprendre pourquoi cette famille a totalement craqué. Le 31 octobre, qu'est-ce qui se passe ? C'est la veille de la Toussaint, vous allez me dire.
Oui, Halloween.
Mais aux États-Unis, en Irlande, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, eh bien c'est Halloween, effectivement. Et ils le célèbrent un peu plus que chez nous. Là-bas, c'est très important, vous le savez. La fête, c'est l'occasion dans certains pays de se déguiser et surtout de décorer sa maison. Et donc, je vous ai trouvé de bons champions. Ah. Un couple. Un couple de champions qui vivent dans l'Illinois, où ce couple a totalement transformé sa maison en recréant tout l'univers de Stranger Things.
Avec les petites loupiottes ?
Il y a tous les monstres, les personnages de la série. Il y a même l'horloge avec son tic-tac inquiétant.
Ah, ça c'est dans la dernière saison.
Faut pas que je spoil. Je m'arrête là. Tout a été fait pour vous croire dans la série. Tout est fait main.
Ah oui.
Et vous pouvez d'ailleurs découvrir cette maison sur TikTok. Voilà, si vous avez un code TikTok, vous, par exemple, votre compte Omblin75.
Je vais pouvoir aller voir vous allez pouvoir la vidéo. Aller voir.
Bah, tout est éclairé.
Tout est éclairé, mais c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes sur le lieu du tournage de la série.
Donc quand ils allument la lumière, ça fait sauter la centrale du coin, c'est ça.
Alors, normalement, vous savez ce qui est le plus flippant ? Parce que la déco n'est pas comme toutes les autres. Oui. Ils ont même fait une reproduction de Max qui se trouve en lévitation devant la maison, comme lorsque Vecna s'en prend à elle.
Bien sûr.
J'en dis pas plus, non, pas gâcher le plaisir. Victime de leur succès, les visiteurs se sont pressés devant la maison. Les gens ont l'impression d'être sur les lieux du tournage. Bien sûr. Plusieurs plaintes ont été déposées parce que finalement, dans cette histoire, tout ne se termine pas forcément bien. La police a même fermé l'accès à la cour de la maison parce que trop de monde. Mais comme dans une bonne série, ça se finit pas trop mal. Après quelques jours de procédure, la police a estimé que l'exposition est sur une propriété privée et ne viole aucune loi et aucun permis. La déco de la maison effrayante devrait rester en place jusqu'au soir d'Halloween, le 31 octobre.
D'accord, mais l'idée est quand même excellente. Hein.
Bah c'est surtout qu'ils ont passé des années à le faire. Hein. Depuis le début de la saison Stranger Things, ils ont tout fait main et tout est reproduit à l'identique pur.
Et double ration de bonbons pour les visiteurs.
Ah bah, normalement, là, vous pouvez y aller. Pour Halloween, il faut demander des bonbons.
C'est sûr. Merci beaucoup, Anissa Dadi. On se retrouve juste avant 5h30 pour la météo.
À tout à l'heure. Europe
Matin. 5h18, les titres de ce mercredi 12 octobre, Alban Le Prince.
Pour mettre fin aux pénuries, le gouvernement dégaine les réquisitions de personnel pour débloquer les dépôts de carburant d'Esso ExxonMobil. Par solidarité pour dénoncer une entrave au droit de grève, la CGT de la raffinerie Total de Donges, la deuxième de France, appelle ce matin à rejoindre le mouvement. Adoptée, la réforme des retraites votée hier par les députés, elle prévoit notamment Elle prévoit notamment de baisser les indemnités chômage quand le marché du travail se porte bien, les augmenter dans le cas contraire. Prochaine étape le 25 octobre au Sénat. Encore une fois, aucun résultat. Les fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin disparue en 2003 qui ont eu lieu lundi et hier dans les Ardennes se sont achevées. Monique Olivier, ex-femme de Michel Fourniret, doit être auditionnée aujourd'hui. Et puis Charles III sera couronné le 6 mai prochain, soit 8 mois après la mort de la reine Elisabeth II. La cérémonie aura lieu à l'abbaye de Westminster.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Très bon réveil à tous sur Europe 1. Avec à 5h19 les initiatives en France, notre coup de projecteur sur ce qui fait bouger le pays.
Une initiative ce matin doublée d'une innovation dans la technologie des panneaux solaires. Bonjour Jérôme Moutarde.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de DualSun. Avec Laetitia Brottier, vous avez mis au point des panneaux solaires hybrides. Pour commencer très simplement, Jérôme Moutarde, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire ?
DualSun, comme son nom l'indique, c'est un panneau qui est dual. C'est-à-dire que nous produisons de l'électricité photovoltaïque avec des cellules photovoltaïques par la face avant du panneau. Et ça, c'est relativement standard sur le plan photovoltaïque, même si on utilise des cellules de très haute performance. Et ce que nous avons développé chez DualSun, c'est un échangeur thermique. C'est un mot un peu technique pour symboliser un tuyau d'eau assez évolué qui est plaqué derrière ces cellules photovoltaïques pour en plus produire de l'eau chaude, en plus de l'énergie électrique qui est dégagée par les cellules photovoltaïques.
Depuis 12 ans, vous développez cette technologie solaire. Hein. Vous avez d'ailleurs été les premiers. Le panneau DualSun, vous l'avez dit, produit à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. Pour que tout le monde comprenne bien, hein, Jérôme Moutère, d'un panneau solaire classique non hybride, il fait quoi ? Il fait que de l'électricité grâce à des cellules photovoltaïques.
Les panneaux solaires qui se développent le plus actuellement, ce sont ce qu'on appelle les panneaux photovoltaïques, qui produisent de l'électricité, qui va être autoconsommée en général dans la maison ou sur le bâtiment sur lequel les panneaux sont installés. Et le surplus, souvent, est revendu au réseau pour alimenter les voisins ou voilà, les besoins d'électricité proches des panneaux. Ce qu'on fait en plus avec le panneau DualSun, donc deux énergies, c'est qu'il y a de l'eau chaude qui est produite par le panneau et qui va être consommée dans la maison, qui permet de générer directement des économies sur la facture de gaz ou de fioul qui aurait servi à chauffer l'eau pour la maison. Donc, deux fois plus d'énergie, puisque d'un côté, les économies et la production photovoltaïque, et de l'autre côté du panneau, la production d'eau chaude qui génère directement des économies sur la facture d'eau chaude qui est chauffée normalement par du gaz ou du fioul.
Ça permet aussi une meilleure économie d'énergie produite par les panneaux solaires. Ce que je veux dire, c'est que le rendement est meilleur qu'un panneau solaire classique, puisqu'il n'y a pas de enfin, en tout cas, il y a moins de déperdition d'énergie.
Voilà, en ordre de grandeur, un panneau photovoltaïque, le rendement est entre 19 et 22% selon les technologies de cellules que vous allez choisir. Ça veut dire qu'il y a globalement 80% de l'énergie solaire reçue par le panneau qui n'est pas valorisée. Ah oui. Donc nous, on s'est attaqué à cette énergie qui n'est pas valorisée et de la cogénération finalement. On va chercher à valoriser cette énergie qui est souvent de la chaleur qui est dissipée aujourd'hui et qu'on récupère dans le panneau. Et donc effectivement, ça fait 12 ans qu'on développe cette technologie. On en est aujourd'hui à la troisième version du panneau DualSun. La première version a été commercialisée en 2014, la deuxième version en 2017, la troisième version en 2019. Et à chaque fois qu'on sort une nouvelle version, on cherche à améliorer le rendement, à diminuer le coût pour en faire une solution qui soit toujours plus compétitive face aux panneaux photovoltaïques.
Être indépendant énergiquement, on en rêve tous, hein. Surtout en ce moment, Jérôme Moutère, c'est le cas de le dire, avec des panneaux hybrides sur son toit. Vous estimez qu'un ménage réduit de combien sa facture d'énergie ?
Alors, c'est une question qui va être toujours très spécifique et on essaye à chaque fois de faire une étude vraiment spécifique à la maison, selon l'inclinaison de la toiture, son orientation, le département dans lequel on est, évidemment.
Oui, ça dépend de la région où on est installé.
Dans le nord de
sûr.
La France, oui. Moins les panneaux produisent, même si ça reste toujours très efficace et pertinent dans le nord de la France. Mais globalement, c'est pour dire que chaque maison est un cas particulier. Mais globalement, quand une installation est bien dimensionnée, on estime qu'on va réussir à réduire de environ 60%, même parfois plus, le besoin en énergie de la maison. On appelle ça l'autonomie énergétique chez nous. Et on peut réduire de plus de 60% les consommations d'énergie de la maison, ce qui aujourd'hui est très significatif avec l'augmentation des coûts de l'énergie.
L'hiver, quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas totalement se passer de notre fournisseur d'énergie.
C'est quelque chose qui est techniquement faisable, mais qui peut coûter très cher. C'est faisable d'être totalement déconnecté du réseau.
C'est faisable parce qu'il faut un système pour stocker l'énergie, c'est ça, emmagasiner une espèce de batterie.
Exactement, qui est dimensionné pour passer les semaines d'hiver les plus longues sans soleil. Et donc aujourd'hui en France, c'est faisable. Mais ça coûte quand même encore assez cher et le marché ne va pas encore dans cette direction, quoi qu'on le ressent de plus en plus avec nos panneaux, des clients qui veulent être en autonomie parfaite et c'est possible de le faire. Par contre, ça demande un investissement conséquent au niveau notamment de la batterie et du stockage de l'énergie. En fait.
L'investissement justement dans l'installation des panneaux DualSun, on peut bénéficier d'aide aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors là, c'est pour le marché français. Il faut avoir en tête que DualSun se développe beaucoup à l'international. Mais si on fait un focus sur le marché français qui nous intéresse, il y a aujourd'hui des aides qui existent, qui sont intéressantes et importantes pour passer le cap. C'est tout le dispositif autour de MaPrimeRénov', dont on entend beaucoup parler, qui est mis en place par l'ANA. Il y a aussi une prime qu'on appelle la prime à l'autoconsommation pour le côté photovoltaïque, qui est aussi très utile pour passer le pas. Mais elles ne sont pas ces primes indispensables à la bonne rentabilité du projet. Et c'est ça qui est très important de souligner par rapport à il y a 10 ans où il y avait beaucoup de subventions parce que le solaire coûtait cher et pour passer le cap, il fallait cette subvention pour que ce soit rentable. Aujourd'hui, le solaire est de moins en moins cher, on va dire. Même si ça reste un investissement, il est dans tous les cas rentable. Et ces primes facilitent encore d'un cran l'investissement.
En quelques mots, combien d'années pour rentabiliser une installation des panneaux DualSun sur son toit ?
Une installation bien dimensionnée avec un installateur sérieux et professionnel va se rentabiliser dans les 8 ans. On va avoir généré au bout de 8 ans autant d'économies en euros que ce qu'aura coûté l'investissement en euros. Il faut avoir en tête que c'est un investissement qui va durer sur 25 ans. Donc quand on le transforme en argument financier, si j'avais placé le montant sur un livret, c'est comme si j'étais rémunéré à plus de 10% sur mon livret. Donc financièrement, c'est un vrai argument. et c'est vraiment très rentable. Par contre, il ne faut jamais le décorréler de l'impact écologique de cette installation qui génère de vraies économies en gaz, en fuel, en électricité. Et c'est pour moi l'argument numéro un pour passer au solaire. C'est un vrai impact écologique et en plus, c'est rentable.
Merci beaucoup Jérôme Moutère d'avoir accepté cette invitation sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Dual Sun. Avec Laetitia Brottier, vous avez mis au point des panneaux solaires hybrides qui produisent à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. Je précise que vos panneaux sont produits en France. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup.
5h28, bon début de matinée, nous sommes le mercredi 12 octobre, bienvenue sur Europe 1, dans la prochaine demi-heure, Alexandre.
Un bon début, c'est un formidable documentaire qui sort aujourd'hui en salle. On y suit une classe de 3e unique en France, des élèves en grande difficulté qui prennent un nouveau départ dans un lycée pro de Grenoble, tout cela grâce à leur professeur Antoine Gentil, pilote ce programme. Le documentaire nous montre au quotidien son travail formidable. Antoine Gentil sera donc mon invité à 6h moins le quart. Quelques minutes après, la prescription culture.
Avec Nicolas Caro qui a choisi un livre américain ce matin, Blackbird de Hillel Levin et James Keane. Quant à Laurie Choleva, le projecteur sera tourné vers une héroïne française, une figure historique. Au cinéma sort aujourd'hui le biopic sur Simone Veil avec Elsa Zilberstein. Et notez d'ailleurs que la comédienne sera l'invitée de Dimitri Pavlenko à 7h10 sur Europe 1.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une de l'actualité, les grévistes ne cèdent pas. Poursuite du blocage des dépôts et raffineries, le gouvernement engage le bras de fer, il dégaine des réquisitions. Pour les automobilistes, c'est une nouvelle journée de galère qui s'annonce. Ça tourne même au casse-tête pour les infirmières libérales, déplacement au compte-gouttes et tri des patients. Nous avons accompagné l'une d'entre elles dans sa tournée. Dans ce journal également, l'examen du projet de loi de finances. Il tourne au cauchemar pour la majorité. L'Assemblée rejette plusieurs articles clés. Et puis la Ligue des champions, Paris tenu en échec un partout hier soir au Parc contre Benfica. Kylian Mbappé a marqué mais il veut partir et plonge le club en pleine crise. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Plus d'essence dans les stations, pratiquement plus d'essence dans le réservoir. La pénurie prend des proportions inquiétantes dans certaines régions. En Ile-de-France, le point critique est atteint. Une pompe sur deux est à sec sur au moins un produit, sans plomb ou diesel. Parfois les deux. Chez Total comme chez Esso, les grévistes ont décidé de poursuivre le mouvement.
Et voilà qui n'est pas sans conséquence pour certaines professions comme les infirmières libérales.
Ah oui, faute de carburant, impossible de visiter les patients sauf à faire des choix. C'est ce qu'a constaté Johan Tritt. Il a accompagné une infirmière dans sa tournée. Reportage.
Regardez, il ne me reste plus grand chose là. Mais ça tiendra pendant la durée de ma tournée.
Au volant de sa petite voiture noire, Kylian, infirmière libérale, se rend chez un jeune homme de 32 ans atteint d'un cancer et qui l'attendait avec sa femme désemparée.
Moi, je suis panique. Avec les trucs, je sais pas c'est quoi.
Difficile de comprendre comment fonctionne la pompe à morphine, sa venue dans ce petit appartement de Saint-Denis en banlieue parisienne était donc primordiale.
Parce qu'il y avait des cailloux dans ses tuyaux, si elle peut pas venir, on est foutu quoi.
Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas, l'infirmière de 45 ans doit pourtant limiter ses déplacements à cause de la pénurie de carburant et tout le monde ne comprend pas.
Les patients à paix, ils veulent qu'on les soigne. Et ils comprennent pas pourquoi on passe pas trois fois parce que sur l'ordonnance, le médecin a bien marqué trois passages. Et pourquoi vous ne passez pas trois fois? Je veux bien passer trois fois, mais j'ai pas de carburant.
Alors, elle essaye d'anticiper.
Vous voyez déjà comment c'était difficile avec le carburant. Donc j'ai envoyé trois patients à l'hôpital qui étaient fragiles.
Ou tente même de trouver d'autres solutions en apprenant aux patients à se servir du matériel de santé. Elle fait même des visios pour éviter de prendre sa voiture. Mais à un moment, il faudra tout de même trouver du carburant.
J'ai ciblé deux stations de sens, donc j'irai faire la queue vers 2h du matin. Je prendrai une tasse de café, je vais faire la queue.
Si elle le prend avec le sourire, Kylian ne demande aujourd'hui qu'une chose, avoir un accès prioritaire aux stations essence.
Un reportage avec une infirmière libérale qui exerce en Ile-de-France, signé Johan Tritz.
Cet enlisement du mouvement fait réagir le gouvernement qui dégaine l'ordre de réquisition.
Elisabeth Borne l'a annoncé hier à l'Assemblée. Cette demande concerne les salariés du groupe Esso. Trois sites sont toujours bloqués alors qu'un accord salarial a été signé à l'échelle du groupe, mais pas des raffineries et ça change tout. L'arrêté de réquisition est donc prêt. Concrètement, David Montagnier, comment cela va-t-il se passer ?
Eh bien, elles sont ordonnées par le préfet de chaque département, mais à des conditions bien strictes. C'est d'abord justifier une entrave au fonctionnement des services essentiels, ce qui n'est d'ailleurs pas défini par la loi et laisse donc place à interprétation. L'autre condition, c'est un risque de trouble à l'ordre public, une notion aussi particulièrement large. Alors aujourd'hui, sur les 8 sites touchés par le mouvement de grève, seuls 3 exploités par Esso sont concernés par ces réquisitions, mais des sites qui ont en fait déjà voté la reprise du travail. Par ailleurs, sur chaque site, elles ne doivent viser que les personnes considérées comme indispensables au service. Selon le ministère de la Transition énergétique, sur chaque établissement, 2 à 3 employés seulement seraient concernés. Des réquisitions qui doivent être individuelles, nominatives et notifiées par des huissiers de justice. Dans la réalité, pour échapper à ces réquisitions, les salariés récalcitrants peuvent toujours se mettre en arrêt maladie. C'est d'ailleurs ce que redoute l'exécutif, qui, pour l'instant en tout cas, n'a pas l'intention de plier. De leur côté, les syndicats dénoncent une atteinte disproportionnée au droit de grève et annoncent d'ores et déjà des recours devant les tribunaux.
David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Le gouvernement attend de voir si la situation se décante dans les raffineries et les dépôts du groupe Esso. La tendance hier soir était à la reprise du travail sur le site de Port-Jérôme-Gravenchon. Cette raffinerie est essentielle pour l'alimentation en carburant de toute la région parisienne.
Du côté de Total Energy, Christophe, la grève semble franchir un cap supplémentaire. La direction ouvre la porte à une concertation.
Oui, mais attention, concertation n'est pas négociation. Le groupe invite les syndicats non grévistes à une réunion cet après-midi. La CGT est conviée également, à condition de libérer les sites avant midi. Pas sûr que cela soit suffisant. Le mouvement de grève pourrait toucher une nouvelle raffinerie à partir de ce matin, celle de Donges, près de Saint-Nazaire.
Europe 1, 5h34, à l'Assemblée, les débats autour du projet de loi de finances tournent au pugilat.
Et comme un avant-goût du débat sur le budget qui attend le gouvernement à partir d'aujourd'hui, il y a eu l'altercation verbale entre le ministre Bruno Le Maire et les élus du Rassemblement National lors des questions au gouvernement. Ça, c'était pour le hors-d'œuvre. Le plat de résistance s'est avéré particulièrement indigeste pour la majorité. Sa loi de programmation budgétaire a été largement revue et corrigée par l'opposition dans une ambiance houleuse. Alexis de La Fontaine.
Pour 194 contre 215, l'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Oui, la majorité reste sonnée article après article. L'opposition rejette les demandes du gouvernement. En réalité, c'est uniquement grâce au bon vouloir des Républicains que certains amendements sont adoptés. Alors à droite, on exulte. Plus que des faiseurs de rois, nous sommes les décideurs, clame un député. En coulisses, un autre, conscient de son importance, fait le signe de vie ou de mort avec ses mains pour narguer ses camarades. De quoi faire enrager Gabriel Attal, le ministre du budget.
On a l'impression que le budget de la France est une espèce de piñata sur laquelle vous voulez taper le plus fort possible pour la faire tomber. La réalité, c'est qu'il y a l'intérêt général, les convictions et le fait de battre le gouvernement qui arrive tout en haut de la pile dans les votes.
Bien que ces articles soient en dehors du projet de loi de finances, ils donnent un avant-goût à la majorité des jours à venir. Mais en Macronie, pas d'inquiétude, le 49-3 réglera le débat, répond un ministre. Maintenant, la seule question, c'est quand le dégainer ? Pas avant dimanche, selon un député de la majorité. Sinon, on renforcera la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. En attendant, les débats reprennent aujourd'hui à 15h.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Maigre consolation pour la majorité. L'Assemblée adopte la réforme de l'assurance chômage avec le concours des voix des Républicains. Le texte permettra au gouvernement de moduler les paramètres ouvrant droit aux indemnités en fonction de la situation économique.
La guerre en Ukraine, est-ce qu'il faut y voir une timide avancée diplomatique? En tout cas, Vladimir Poutine se dit prêt à rencontrer Joe Biden.
Ouais, c'est son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui le dit. Le chef du Kremlin pourrait accepter de discuter avec son homologue américain. La rencontre pourrait se faire dès novembre, en marge du G20. Encore faut-il s'entendre sur l'objet de la discussion, répond en écho Joe Biden. S'il s'agit de négocier le maintien des Russes sur toute ou partie de l'Ukraine, eh bien c'est non, a-t-il fait savoir sur CNN.
La France décide, elle, de renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est, dans le cadre de la mission OTAN.
Les conséquences de la campagne de bombardement intense menée par les Russes sur plusieurs villes ukrainiennes. Paris envoie une vingtaine de chars Leclerc en Roumanie. La France prévoit également le déploiement d'avions Rafale en Lituanie. Une centaine de soldats iront par ailleurs renforcer le contingent français présent en Estonie.
La guerre en Ukraine a aussi des conséquences économiques. Le Fonds monétaire international alerte sur le risque de récession.
Les prévisions très sombres, 2,7% d'augmentation du PIB, ce sont les prévisions de croissance au niveau mondial. Aucun pays ne devrait échapper à un fort ralentissement. Selon les experts du FMI, l'Allemagne et l'Italie devraient particulièrement souffrir l'année prochaine. La France pourrait échapper de justesse à la récession en 2023.
On passe au sport, Christophe, avec le PSG accroché sur sa pelouse hier soir en Ligue des Champions. Un match pollué par les déclarations de Kylian Mbappé.
Un partout face à Benfica, le buteur s'appelle d'ailleurs Kylian Mbappé. La star parisienne a confié peu avant le coup d'envoi sa volonté de quitter Paris. Un mal-être lié à son positionnement sur le terrain et à des promesses, d'après lui, non tenues. Stupeur de l'encadrement qui a cherché à déminer le dossier. L'entraîneur parisien Christophe Galtier s'étonne de la proportion prise par cette non-affaire, selon lui.
Ce que je sais, rien. Je sais rien. Je sais simplement que une rumeur est devenue une information et une information est quasiment devenue une déclaration. J'ai jamais eu vent de ce genre d'information ou de réflexion, de discussion, que ce soit avec Kylian mais aussi avec la direction du club. Kylian ce soir a fait un match très rythmé, très intense, Il a été évidemment le joueur le plus dangereux. Il a marqué, il aurait pu marquer un deuxième but, mais malheureusement, il était hors jeu pour quelques centimètres. Il a donné une réponse par rapport à cette rumeur. Je n'ai pas à la commenter, si je le répète encore une fois, c'est que de cette rumeur, on en a fait une information qui est devenue, on n'était pas loin d'en faire une déclaration.
L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, avec Cédric Chasseur.
Merci Christophe Lamar. 5h39, très bon réveil sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, c'est sur l'hippodrome d'Anguin que va se courir ce Quintet, une épreuve réservée exclusivement à la jante féminine. Et parmi les 16 juments, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection French Way of Life, le numéro 16, dont la dernière tentative à ce niveau sur l'hippodrome de Vincennes est certainement meilleure que ne l'indique son classement. Irréprochable auparavant, elle trouve ici une occasion idéale pour reprendre le cours de ses bons résultats. On lui opposera les numéros 9, Fillette Del Green, 4 fois à l'arrivée dans cette catégorie des quintés pour autant de tentatives, 14, Flic à Jullery, en plein boom actuellement, et pour laquelle son propriétaire entraîneur-driver, Jean-Paul Gauvin, n'hésite pas à effectuer un très long déplacement depuis le centre-est, et 15, Florine de Viette, qui se doit de confirmer sa dernière victoire obtenue sans aucune émotion dans un quintet le 26 septembre sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Enfin, les numéros 8, Féline de Lavaux, 6, Hermine Dulude, 5, For Loving You et 12, Fille du Chêne compléteront ma sélection. Mon pronostic, 16, 9, 14, 15, 8, 6, 5 et 12.
Et 12, tous ces pronostics sont dès maintenant sur Europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Cet adversaire,
allô Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
C'est à présent le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Aujourd'hui, les attentats meurtriers de Bali. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Alexandre, bonjour Blin.
Vous revenez aujourd'hui en effet sur ces attentats qui ont marqué les esprits. C'était il y a 20 ans à Bali, en Indonésie, 12 octobre 2002. Ces attentats à la bombe font plus de 200 morts. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière dans l'histoire du plus grand pays musulman au monde.
Oui, deux attentats détruisent un bar et une discothèque parmi les plus fréquentés de Bali. Un kamikaze s'est fait sauter dans ce bar et une camionnette explose quelques minutes plus tard devant la boîte de nuit. Ce témoin est à 100 mètres de là et il s'en est sorti.
Bah, on voyait tous les gens qui couraient, des gens qui marchaient, qui boitaient, qui étaient en sang, des gens brûlés, des gens pieds nus, il y avait tout.
C'est un groupe lié à Al-Qaïda qui est derrière ces attentats. L'attaque visait à détourner les touristes de l'Indonésie, pays musulman le plus peuplé de la planète. Ces touristes français ont quitté le pays juste après l'explosion.
Les Balinais étaient très, très tristes. Enfin, ils nous demandaient si on avait apprécié notre séjour et que vraiment, si on voulait revenir. Et...
C'est les guides qui étaient les plus marqués parce qu'ils voyaient tout de suite l'impact que ça allait avoir sur leur activité, bien sûr.
Et en effet, les tours opérateurs annulent tous leur voyage en direction de Bali. Parmi les victimes de l'attentat, il y a 88 Australiens, 38 Indonésiens, 24 Britanniques et 4 Français.
Les enquêteurs traquent les auteurs de l'attentat. 3 hommes sont arrêtés dans les semaines qui suivent.
Oui, ils sont jugés coupables et condamnés à mort en 2003. Au total, 33 Indonésiens seront condamnés pour avoir participé à l'attentat. Le président de la République, Jacques Chirac, s'exprime au lendemain du drame sur la menace terroriste mondiale.
Le crime de masse qui vient d'être commis en Indonésie, il est là pour démontrer que la menace terroriste reste universellement présente, dangereuse, active.
Ce mouvement terroriste en Indonésie est aussi très difficile à neutraliser. C'est ce qu'explique sur Europe 1, 3 ans plus tard, en 2005, Jean-Charles Brizard, expert sur les questions de terrorisme.
Ce pays est majoritairement composé d'une population islamique. C'est très compliqué, encore une fois, pour l'Indonésie de combattre ce mouvement, qui est un mouvement malheureusement populaire.
Après les attentats de Bali, en tout cas, l'Indonésie ne rompra pas ses liens avec les États-Unis et l'Australie, mais ils vont tous coopérer davantage en matière de sécurité.
Merci. Lors d'Autriche et à demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1.
5h43, dans un instant, une chance pour tous. À l'école, les impasses n'existent pas, même pour les élèves qui ont décroché. C'est l'ambition du programme Starter, unique en France. Une classe de 3e, pas comme les autres, que nous dévoile un documentaire qui sort aujourd'hui en salle. Antoine Gentil, professeur et pilote du projet, personnage central donc de ce documentaire, est avec nous dans un instant. A tout de suite.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Votre matinale info sur Europe 1. Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Il est 5h44 sur Europe 1. Le décrochage scolaire n'est pas une fatalité. C'est le message porté par le documentaire Un bon début qui sort aujourd'hui en salle. Pendant un an, les réalisateurs ont suivi un enseignant et ses élèves de 3e du lycée professionnel Guinemer à Grenoble. Antoine Gentil pilote un programme unique en France, le programme Starter. Il redonne une chance aux élèves en grand décrochage scolaire avec la promesse de ne jamais les lâcher. Antoine Gentil est ce matin votre invité, Alexandre.
Bonjour Antoine Gentil.
Bonjour.
Alors pour vos élèves du lycée professionnel Guinemer de Grenoble, vous êtes un peu le prof de la dernière chance. Ce sont des élèves en grande difficulté. Vous leur faites prendre un nouveau départ avec votre programme Starter. C'est ce qu'on voit dans ce magnifique documentaire. Expliquez-nous en quelques mots ce programme. 10 ans d'existence.
Oui, tout à fait. Mais alors d'abord, je vais reprendre la formule que vous venez d'employer. Moi, je ne crois jamais que ce soit la dernière chance quand on a 14 ou 15 ans. Et en même temps, oui, ça présente un peu la philosophie du projet qu'on mène avec toute notre équipe, qui est de se dire que, en effet, on s'adresse à des jeunes vulnérables de 14 ou 15 ans qui sont repérés comme étant des jeunes en rupture socio-scolaire, et on met autour d'eux un accompagnement en place qui consiste à les remettre en confiance et à les ramener vers l'école en s'appuyant sur un désir très fréquemment exprimé par ces jeunes, qui est de dire « je ne veux plus de l'école, mais j'ai envie de travailler ».
Vous êtes celui qui ne laisse jamais tomber ces ados, on le voit très bien, ces ados qui sont tombés en marge du système scolaire. Il n'y a pas un seul profil de décrocheur, Antoine Gentil.
Non, vous avez raison, et le terme décrocheur, moi je ne l'aime pas du tout. C'est pour ça que j'emploie le terme d'adolescent vulnérable. D'abord, pour des enfants de 14-15 ans, il est impropre, puisque c'est à partir de 16 ans qu'on peut vraiment qualifier quelqu'un comme étant en décrochage scolaire. Mais en plus, vous avez raison, on ne laisse jamais tomber. C'est ce qu'on appelle l'indéfectibilité du lien. C'est-à-dire que, en effet, avec un jeune, si on veut que ça marche, avec un adolescent, si on veut que ça marche, il faut être un adulte fiable. Et ça, c'est vraiment très important si on veut aboutir à quelque chose à la fin de l'année.
Vos élèves, vous ne les voyez pas, vous les regardez les yeux dans les yeux. Vous leur dites « tu existes, tu es important à mes yeux ».
En effet, ça apparaît, mais en quelque sorte, ça rejoint quand même quelque chose que j'explique en formation. C'est ce qu'on appelle la part sensible de l'acte éducatif. C'est-à-dire, en effet, comment le corps, le non-verbal joue pour arriver à repérer d'abord chez un enfant qui va mal les signes de ce qui peut aller mal. Et ça se dit pas, ça se voit. Et ensuite, comment par le regard également, on adresse des messages et de confiance, etc. Donc c'est le regard, ça compte énormément.
Le documentaire montre très bien le quotidien de ces ados. Ils ont malheureusement déjà des parcours cabossés. On entend dire à un moment à l'une de vos élèves, tu as 15 vies derrière toi, c'est déjà beaucoup trop.
Oui, en fait, je pense qu'on peut dire qu'ils sont tous des ados qui ont vécu des accidents de la vie, qui portent des traumatismes. Et donc, on est une école qui tient compte de ça. Alors, on n'est pas des super-héros, on règle pas tout seul, on travaille en alliance avec d'autres professionnels et on cherche à tout faire pour que nos élèves comprennent aussi le sens des accompagnements qui sont mis en place autour d'eux, que ce soit des accompagnements éducatifs, psychologiques, etc. Mais en effet, on tient compte de leurs problématiques.
Vous réussissez, en tout cas, vous avancez là où le système scolaire a échoué, là où les parents eux-mêmes échouent. On voit dans le doc ce père qui dit de sa propre fille, Tamara, qui fait des fugues, il dit « c'est elle qui commande sa mère ». Et finalement, il y a ce moment formidable avec elle, vous lui proposez plein de formations qui ne l'intéressent pas, et puis d'un seul coup, on voit ses yeux qui s'éclairent, sa voix, c'est l'accompagnement des personnes pour Tamara.
Tamara, c'est une personne exceptionnelle. Après, moi, je nuancerais ce que vous avez dit sur les parents et l'école. Je suis de l'éducation nationale, je crois beaucoup, moi, à l'école de la République française. Ça fait peut-être vieux con de dire ça, mais j'y crois énormément. Notre pays doit être fier de son école, et par contre, c'est vrai que, en effet, il y a des réflexions à mener, et en particulier sur la relation éducative, par exemple. Il y a des chantiers à mener, je suis d'accord. D'abord, c'est parce que l'Académie de Grenoble m'a fait confiance que le projet Starter existe, donc faut le dire. Et deuxièmement, pour ce qui est des parents, il faut à tout prix sortir du raccourci. C'est la faute des parents. Parce que, voit, le film nous explique ça, justement. Ces parents, c'est aussi des combattants, c'est aussi des gens qui vivent des situations extrêmement compliquées et qui, pris dans cette tourmente existentielle, veulent la réussite de leur enfant.
On voit dans le doc, vous êtes dans une démarche d'insertion professionnelle avec vos élèves, vous les mettez sur le chemin du travail, c'est pas toujours facile. On voit également cette séquence avec Nels, qui sèche son stage de boucherie, et puis vous le rattrapez, vous le remettez dans le train, comme vous dites.
Et oui, Nels, c'est un jeune qui a pas eu une existence facile, on le voit. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on voit de Nels dans le film, à mon début, c'est qu'on le voit se réveiller dans une maison d'enfants, et on le voit aller à l'école. Et je pense que c'est aussi, nous, c'est en tout cas quelque chose qu'on développe depuis Starter. C'est une réflexion sur le fait de qu'est-ce que ça veut dire scolariser, des enfants qui vivent en maison d'enfants, en foyer, comme on dit généralement.
Il est plein d'espoir, ce documentaire, et donc votre programme Starter, il montre qu'il n'y a pas d'impasse, il y a toujours une issue. Vous avez maintenant, Antoine Gentil, une dizaine d'années de recul sur votre travail. Ils deviennent quoi, vos élèves? Est-ce que certains vous le disent? Est-ce qu'ils ont réussi, comme vous dites, à prendre leur envol?
J'ai accueilli 150 élèves et ils passent nous voir. On en a 4 ou 5 qui passent chaque semaine nous parler d'eux. Et donc, en fait, c'est assez simple à dire ce qu'ils deviennent. Si on prend l'exemple du film, on a une bonne moitié des élèves qui, c'est merveilleux, qui se réalisent par le métier. Donc, on a Elias, par exemple, qui est carrossier, Franck, qui a réussi un CAP en menuiserie, Tatiana, qu'on voit au tout début du film, qui vient de signer un CDI en restauration. Donc, voilà, ça, c'est la moitié de nos élèves à peu près. Et puis, une autre moitié, c'est des jeunes qui sont pas tout à fait prêts à aller dans le milieu professionnel parce que les difficultés sont trop grandes et faut l'entendre, ça, faut l'accepter, faut se dire, en effet, qu'est-ce qu'on leur propose à ces jeunes? Et ça pose aussi une question de la réponse sociale. Et là, je pense qu'on, c'est une réflexion qui doit être peut-être entendue et que les gens qui voient le film doivent se poser cette question. Mais par exemple, c'est intéressant de se dire que tous les gamins vont pas s'en sortir à 15 ans en allant bosser. Certains, il leur faut un peu plus de temps. Et puis, se rappeler que nous, à 15 ans, est-ce qu'on était prêt à être apprenti, par exemple, à intégrer tout de suite le monde professionnel? Voilà, faut évidemment accepter la complexité quand on fait ce boulot et le fait qu'on doit personnaliser autour de chaque jeune. Et puis, il y a certains jeunes qui commencent une formation, qui y croient, qui sont engagés, puis qui sont rattrapés par les difficultés financières, les difficultés économiques, qui doivent abandonner à cause de ça, par exemple. Et là, on se retrouve aussi face confronté quand on suit ces jeunes, de voir les aider 2-3 ans après, parce qu'on est les adultes afférents, à faire des relais pour qu'ils sont heureux pas, parce qu'on en voit aussi malheureusement qu'ils sont vraiment dans des situations sociales très 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 difficiles.
Un bon début pour ces élèves qui vous devront forcément beaucoup dans leur vie d'homme et de femme. Un bon début, c'est le titre de ce documentaire d'Agnès et Chabi Molia qui sort en salle ce mercredi. Un an de la vie scolaire d'une quinzaine d'adolescents, un an de votre travail de professeur unique en France. Merci à vous, Antoine Gentil.
C'est moi qui vous remercie.
Europe Matin, 5h51, les titres de ce mercredi 12 octobre, Alban Le Prince.
Le gouvernement se prépare à réquisitionner les grévistes de deux sites Esso et ExxonMobil, conséquence de la grève qui dure depuis maintenant 3 semaines, privant les stations-service de carburant. La CGT dénonce une entrave au droit de grève et annonce une extension de la mobilisation à la deuxième raffinerie de France, celle de Donges. A noter que la direction de Total Energy convie aujourd'hui les syndicats non grévistes à une réunion de concertation et d'échange. En Ukraine, le procureur général a annoncé hier avoir exhumé les corps de 78 civils retrouvés dans 2 villes de la région de Donetsk, récemment reprises aux forces russes. Dans ce contexte, Paris renforce sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN. Dans les prochaines semaines, 12 de véhicules blindés d'infanterie seront déployés, ainsi qu'une 12 de chars Leclerc. Et puis la NASA donne des nouvelles de la mission DART. Le vaisseau envoyé a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire. Test lancé pour protéger la planète Terre d'une potentielle future menace.
Europe Matin.
5h52, bon réveil à nos côtés. Il est temps de découvrir votre nouvelle prescription culture.
Avec du cinéma, Laurie Choleva va nous rejoindre.
Mais d'abord la littérature. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Alors Nicolas, on quitte un peu la rentrée littéraire française, cette fois pour l'Amérique.
Et ça vaut le coup, vous allez voir. Le livre s'appelle Blackbird, chez Sonatine, couverture Sonatine au passage. Superbe comme toujours, un ciel noir et gris, là, terrifiant. C'est signé Hyland Levin et James Keane. Vous connaissez James Keane ?
Non, je ne connais pas James Keane. Est-ce que je devrais ?
Avant 96, en tout cas, tout le monde voulait connaître James Keane. Jeune type dans la banlieue chic de Chicago, bonne famille, populaire, vous pouvez l'appeler Jimmy. Papa pompier et policier, maman qui possède un resto branché, sportif. Jimmy pratique 3 sports différents, il excelle en tout. C'est la coqueluche de son petit monde et après, il réussit aussi dans différents business. À cette époque, écrit-il, où que je loge, il y avait toujours une Corvette dernier modèle dans l'allée, une moto de course et une Harley dans le garage et une fille très sexy dans la chambre. Mais en 96, donc, il est jugé pour trafic de drogue et condamné à 10 ans de prison.
C'est cette histoire,
est vrai.
Ouais, c'est cette histoire, Nicolas, qui raconte dans le livre avec un co-auteur.
Oui, Hyland Levin, lui, il est journaliste. Mais attendez, le meilleur est à venir. Jimmy assume, il a pris 10 ans, il les fera. Ça fait 10 mois qu'il est en prison et le FBI vient le voir. Il lui propose un arrangement. Jimmy est un peu méfiant, il est emmené menotté dans une salle, on lui donne une enveloppe, il ouvre, c'est la photo du cadavre d'une jeune fille. Puis une autre et une autre. Au début, Jimmy se demande s'il le soupçonne de ses atrocités, mais pas du tout. Il se trouve qu'un psychopathe a été arrêté. Il s'appelle Larry Hall. Kaboul. Il a été inculpé pour un seul meurtre, mais il en a au moins commis 20. Impossible de le faire avouer, et voilà le deal. La peine de James sera annulée s'il accepte d'être intégré, infiltré dans l'unité psychiatrique haute sécurité du psychopathe pour gagner sa confiance et récolter des aveux ou au moins des éléments sur ses autres victimes. Il pourrait envoyer un agent, mais Hall, le tueur, le repérerait tout de suite. Ce qui intéresse le FBI chez Jimmy, c'est son côté caméléon, son côté populaire mais aussi dealer de drogue. Il a côtoyé tous les types de classes sociales, des voyous au grand patron, il sait se fondre dans le décor.
Bon alors, il accepte, hein, sinon il n'y a pas de livre, Nicolas.
Absolument. Et il nous raconte, et c'est addictif. Alors, je ne l'ai pas vu, mais il y a une série diffusée sur Apple TV, adaptée du livre aussi, scénarisée par un autre romancier, Denis Lehane, l'auteur de Shutter Island. La série, je ne sais pas, mais le livre, vous pouvez y aller, c'est simplement dingue.
Et ça s'appelle Blackbird, chez Sonatine, de James Keen et Hillel Levin. Merci beaucoup, Nicolas Caro. On passe au cinéma. Bonjour, Laurie Choleva.
Bonjour à tous.
Bonjour Laurie. La sortie ciné du jour, eh bien c'est la vie de Simone Veil, portée sur grand écran. Simone, voyage du siècle.
Et oui, on l'attendait, ce biopic signé Olivier Dahan, grand spécialiste du genre, à qui l'on doit déjà d'autres grands portraits de femmes comme Piaf ou encore Grâce de Monaco, et qui accomplit ici, avec ce projet merveilleux, un indispensable devoir de mémoire.
Comment définir la mémoire ? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
Simone ! Alors Simone Veil, tout le monde connaît, même les plus jeunes générations. On la connaît pour tout ce qu'elle a accompli, la loi en faveur de l'avortement, la présidence du Parlement européen, tous ses nombreux combats. Mais le film s'intéresse surtout au destin de cette jeune fille de 16 ans, victime de la Shoah et déportée avec toute sa famille à Auschwitz.
Vous ne me faites pas peur ! J'ai survécu à pire que vous !
Et c'est en ça que le film est très réussi, puisqu'on découvre toutes les épreuves auxquelles Simone a dû faire face. L'horreur des camps, la maladie, le décès de sa mère bien-aimée. Et l'on voit à quel point la relation qu'elle avait avec sa mère et tout ce qu'elle a vécu à ses côtés dans les camps a été déterminante pour le reste de sa vie.
C'est ma force.
Maman, regarde-moi !
Et mon modèle. Tous mes combats, c'est elle. Pour elle.
Et oui, le fait d'avoir vécu la déportation, d'avoir vu sa mère, son modèle, mourir sous ses yeux. Toutes ces épreuves ont marqué Simone à jamais. Et c'est ce qui lui a donné cette rage pour combattre toutes les formes d'injustice pour tout le reste de sa vie. C'est ce qui a donné la force à Simone de s'engager pour préserver la dignité humaine, toutes les formes de dignité humaine. Le film est vraiment très réussi. C'est une grande fresque et surtout, c'est très bien joué par Rebecca Marder qui interprète Simone dans sa jeunesse, ou encore Elsa Zilberstein qui d'ailleurs porte ce projet. Hein. C'est vraiment elle qui est à l'initiative de ce film et qui campe une Simone Veil telle qu'on l'a connue, contemporaine, et qui est absolument bluffante.
Et on retrouvera Elsa Zilberstein, invitée chez Dimitri Pavlenko. À 7h10, Laurie, vous nous parlez d'un autre coup de cœur.
Et oui, Jack Mimoun et les secrets de Valverde, c'est mon grand coup de cœur. Un film d'aventure signé Malik Bentala avec Joséphine Japy, François Damiens, Jérôme Commandeur ou encore Benoît Magimel. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film d'aventure à la française aussi bien réussi qu'un Indiana Jones. Et je pèse mes mots. C'est un hommage à tous ces grands films d'aventure, mais avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'humour et une pointe d'exotisme. C'est parfait et c'est pour toute la famille.
Merci beaucoup Laurie Choleva et on se retrouve samedi sur Europe 1. On va vous retrouver dès 17h, 17h-18h dans votre émission Clap. Excellent mercredi matin, bienvenue, vous faites bien de vous réveiller avec nous sur Europe 1, sur la météo, le journal de 6h et à 6h40, Alexandre, votre interview.
Oui, on va parler de votre porte-monnaie bousculée par l'inflation, hein, c'est une certitude, mais une enquête nous apprend ce matin que la flambée des prix creuse aussi les découverts bancaires, les comptes en banque qui finissent dans le rouge à la fin du mois. On regarde les résultats de cette étude publiée par Panora Bank avec son porte-parole à 6h40.
Il y aura également le pressing, les trois articles à lire dans les journaux du matin.
Et puis votre partition bide.
Si je vous dis les Dents de la Mer, Superman ou Indiana Jones. Ah.
Ça fouette.
Oui. Avec le chapeau Fedora, évidemment. Vous me répondez, John Williams avec John Barry et Hans Zimmer. Il est l'un des plus grands compositeurs de musique de film d'Hollywood, de la partition de John Williams dans 20 minutes.
Il est 6h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Une atteinte à la liberté du droit de grève. La CGT dénonce ainsi les réquisitions du gouvernement. L'une des plus importantes raffineries du pays rejoint ce matin et à son tour la mobilisation. Peut-on parler de politique à l'église? Une vingtaine de parlementaires étaient conviés hier soir pour une messe aux accents très politiques justement. Reportage à suivre. Encore un match nul pour le PSG face au Benfica hier soir. Les Parisiens sûrement distraits par une rumeur, celle du départ de leur attaquant star Kylian Mbappé. Les informations du service des sports d'Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Journal présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Le gouvernement choisit la méthode forte. Reste à savoir si ça marchera. La réquisition du personnel pour débloquer les dépôts de carburant d'Esso ExxonMobil. L'idée, faire plier les grévistes. Et pour l'instant, c'est tout le contraire.
Et l'annonce d'Elisabeth Borne a mis le feu aux poudres. La raffinerie de Donges en Loire-Atlantique rejoint ce matin la mobilisation. C'est la deuxième de France en termes de volume.
Oui, une raffinerie Total Energy qui n'est pour l'instant pas concernée par ces réquisitions. Mais la solidarité prime pour le secrétaire de la CGT, Fabien Privé-Saint-Lanne, dénonce une violation du droit.
C'est une atteinte au droit de grève constitutionnel. Donc aujourd'hui, il est inacceptable de voir nos collègues encadrés par les forces de l'ordre pour aller travailler alors qu'ils se déclarent grévistes. Surtout qu'il ne me semble pas vraiment étouffé par la cohérence, ce gouvernement, puisqu'il disait préalablement, il y a encore quelques jours, ne pas vouloir s'immiscer dans l'entreprise et dans les discussions entre employeurs et organisations syndicales. Et aujourd'hui, il envoie la force publique pour faire travailler les grévistes. Nous demanderons aux salariés de ne plus effectuer de chargement, déchargement de camions, de pipes, de bateaux, plus aucune expédition. Donc concrètement, plus rien ne sortira de la raffinerie. Que ce gouvernement recouvre la raison et respecte le droit de grève des travailleurs. Et d'autre part, que la direction générale de Total se mette autour de la table, autour des discussions concernant les salaires, l'emploi et l'investissement.
Le secrétaire de la CGT pour la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, Fabien Privé-Saint-Lanne, répondait à Caroline Baudry pour Europe 1.
Et ce matin, un tiers des stations service manque toujours de carburant.
Et la galère continue pour les automobilistes au point de devoir laisser sa voiture au garage. Plusieurs options, le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. Solution choisie par les salariés de ce parc d'attractions du Doubs. Oui, mais comment s'organise-t-il exactement? Le reportage de Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans l'Est.
Permettez-moi de me présenter.
Matteo, Manon et Mélissa, en pleine répétition du spectacle d'Halloween, sont animateurs au parc du Petit Prince. Tous habitent Mulhouse, à 20 km. Alors ils ont récemment pris l'habitude de faire du covoiturage.
Plus il y a de covoiturage, moins il y a de véhicules qui circulent, donc moins de réservoirs qui se vident. Et donc moins de monde à la station essence.
C'est vraiment pratique, c'est écologique, c'est économique.
Comme eux, la moitié des employés du parc fait en ce moment du covoiturage et la direction adapte leur planning. Anaïs Vrobel, responsable marketing.
On a vraiment aménagé les emplois du temps pour que ceux qui viennent ensemble ou viennent du même endroit commencent à la même heure et vont finir à la même heure. Et pour ceux qui ont un métier qui est faisable à distance, il y a une très grande tolérance sur le télétravail. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vais devoir repartir à 14h pour pouvoir essayer de trouver de l'essence, récupérer mes enfants et je vais finir la journée en télétravail pour être sûre de pouvoir tout combiner.
Et elle espère surtout que la pénurie de carburant sera terminée pour les vacances de la Toussaint. Ungersheim, Mélina Fachin, Europe 1.
Europe 1, 6h03. Aimez-vous les uns les autres? Ce célèbre passage de l'évangile a peut-être inspiré les parlementaires,
oui,
Roman.
Une vingtaine de députés et sénateurs étaient réunis sur les bancs de l'église hier soir à Paris. Une messe organisée à deux pas de l'Assemblée nationale. Et même devant l'archevêque de Paris, la politique n'était jamais bien loin. Le reportage d'Alexandre Chauveau.
Au premier rang, face à l'hôtel magistral de Sainte-Clotilde, Éric Woerth et Gilles Legendre, assis devant une petite dizaine de députés RN, le cadre est pour le moins inhabituel et la messe, prononcée par Mgr Ulrich, particulièrement politique.
Sur la question de la fin de vie, j'ai dit qu'il fallait écouter les paroles de ceux qui accompagnent les mourants. L'objectif, c'est pas d'abord de quitter la vie, mais l'objectif, c'est de vivre pleinement les derniers moments.
Au cœur de l'homélie, la fin de vie donc, mais aussi le changement climatique ou la guerre en Ukraine. Une messe critiquée par la NUP au nom de la laïcité, mais la députée RN Laure Lavalette y voit au contraire une forme de logique.
La quête du bien commun, c'est aussi une sorte de charité suprême. Donc la recherche du bien commun, c'est effectivement la charité que l'on doit à son peuple. Donc je suis ravie d'aller à la messe le dimanche et de siéger le reste du temps à l'Assemblée nationale.
Le sénateur LR de l'Oise, Jérôme Bacher, a lui lu une prière pendant la messe et ne voit pas non plus de contradiction avec son engagement parlementaire.
On peut avoir des engagements religieux sans que ce soit forcément la priorité au Parlement. L'État laïque fonctionne pour moi très bien de cette façon et je suis très très attaché à la laïcité.
Et après une heure de communion, chacun reprend ses habits de député, prêt à en découdre dans l'hémicycle.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. 6h05, plus fort que Bruce Willis dans Armageddon, il y a DART de la NASA.
Today, NASA confirms that DART successfully changed.
L'agence spatiale américaine a confirmé hier soir le succès de sa mission lancée fin septembre. On en avait parlé sur Europe 1. Un vaisseau s'était écrasé volontairement sur un astéroïde pour tenter de modifier sa trajectoire. Une sorte de répétition générale en cas de pépin pour l'humanité. Eh bien, mission réussie, pas besoin de sacrifier Bruce Willis, Alexandre.
Happy end. 6h05 sur Europe 1. Votre actualité sportive à présent avec une journée romane, mouvementée pour le Paris Saint-Germain.
Oui, d'abord sur le terrain où les Parisiens se sont contentés d'un match nul hier soir, un partout face au Benfica. Le troisième d'affilée tout de même pour les joueurs de Christophe Galtier, toujours pas qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et puis en coulisses, l'équipe est secouée par une rumeur.
Mais oui, cette rumeur, c'est celle du départ de Kylian Mbappé dès janvier prochain.
Et selon les informations d'Europe 1, la star parisienne se sentirait lésée par son club qui n'aurait pas respecté ses engagements lors de la prolongation de son contrat. Le directeur et l'entraîneur du PSG démentent. Cyril de la Morinerie, ce malaise est palpable, mais il n'a pas empêché l'attaquant de briller pendant la rencontre hier soir.
Oui, Kylian Mbappé n'a rien laissé transparaître sur le terrain. D'ailleurs, la star n'a pas hésité à s'emparer du ballon pour tirer lui-même le pénalty. Neymar a été spectateur. L'attaquant de 23 ans, nullement déstabilisé par les informations dévoilées quelques heures plus tôt sur ses états d'âme au PSG, a fait trembler les filets. Kylian Mbappé, qui aurait pu marquer un deuxième but s'il n'avait pas été signalé hors jeu, a été ovationné par le Parc des Princes, confirme Dylan, supporter parisien.
Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus sifflé. Et puis finalement, non, il y a eu beaucoup de respect, il a fait un beau match.
Mais Patrick n'est pas tout à fait de cet avis.
Je pense qu'il a été un peu tourmenté par l'histoire, ouais, je pense. On a vu pas mal de choses sortir sur Europe 1. Il a voulu prouver qu'il reste un des plus grands leaders du PSG.
En attendant, la cote de popularité de Kylian Mbappé au PSG est toujours à son zénith.
Kiki, on veut que tu restes au PSG, t'as plein de titres à gagner avec nous.
Allez Kiki !
Les fans parisiens espèrent que Kylian Mbappé, victime d'une petite torsion à la cheville, sera à 100% dimanche prochain. La star sera de nouveau scrutée de très près lors du classique PSG-OM.
Voilà la popularité de Kiki Kylian Mbappé racontée
Kiki
par...
C'est Kiki maintenant, d'accord.
Voilà, bon. C'est ça, c'est son surnom. Cyril de la Morinerie qui nous parlait aussi de l'OM, qui joue ce soir en Ligue des Champions suite des matchs franco-portugais. Les Marseillais ont rendez-vous sur la pelouse du Sporting Lisbonne. Une rencontre à suivre en direct, bien sûr, sur Europe 1.
C'était le journal des sports avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Omblin, Alexandre, si je vous dis série américaine, oui. Fin des années 80, avec une mamie détective.
Une mamie détective.
Une romancière. Comment vous parlez de Jessica Fletcher?
C'est affectueux, mamie détective. Bon, vous avez trouvé, on parle de la série Arabesque, bien sûr, Angela Lansbury, qui joue le rôle de la pétulante Jessica Fletcher. On a appris la disparition de l'actrice hier soir à 96 ans.
Presque centenaire, Jessica Fletcher. 6h08 sur Europe 1, c'est le journal de Roman Hockey. Merci Roman.
Et vous restez avec nous dans un instant, le pressing.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
6h11, très bon réveil sur Europe 1. Toute la presse de la matinée au filtre du pressing.
Et nous sommes trois pour faire le tour des journaux du matin. Avec nous Dimitri Vernet. Et dans un instant, vous allez nous parler de quoi, Dimitri ?
Eh bien, comme on en parlait dans le journal de 6h, oui. Au menu du jour, la menace astéroïde pour la planète.
Bon, ce matin, on commence ce tour de table par vous, Alexandre.
Mais oui, je tombe sur ce papier ce matin qui me fait penser à Mad Max. Vous savez que dans ce film, l'essence vaut de l'or. On se bat pour la moindre goutte au péril de sa vie. Eh bien, c'est un peu ce que nous raconte le Figaro. Sauf que ce qu'on lit dans le Figaro ce matin, c'est pas de la fiction, c'est bien réel. La pénurie de carburant qui dure et qui maintenant dégénère, qui provoque toutes sortes de trafics. Je commence par ces histoires de pompistes clandestins. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le Val-de-Marne, la police a surpris des vendeurs à la sauvette. Ils s'étaient mis au bord de la route. Ils vendaient de l'essence au bidon. 3,50€ le litre. Ils ont été interpellés, ils risquent 6 mois de prison. Toujours en région parisienne, Villiers-le-Bel cette fois-ci, Val d'Oise, une bande organisée a réussi à prendre le contrôle d'une station-service totale.
Ah bon ?
Plusieurs automobilistes arrivaient pour faire le plein. Ils ont dû appeler le 17 parce que cette bande réservait l'accès aux pompes aux habitants de la cité voisine. Cette pénurie qui dure, c'est aussi le retour des vieilles méthodes de vol de carburant, le retour des gangs de siphonneurs. Sur le parking de l'hôpital d'Argenteuil, par exemple, un hôpital l'hôpital. Hein. Les 7 véhicules des soignants ont été vidangés. Hop, réservoir vidé. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Le Figaro a pu consulter en fait un bilan policier sur ces affaires. Plus de 4000 cas de vol et d'escroquerie à l'essence ont été recensés depuis le début de l'année. Je dis depuis le début de l'année parce qu'en fait, ces affaires de siphonnage de réservoirs avaient été observées au démarrage, au déclenchement de la guerre en Ukraine, donc fin février dernier. Je ne vous parle pas des insultes et des bagarres qui sont également mentionnées dans ce papier du Figaro, dans les files d'attente pour faire le plein. Là aussi, vous êtes nombreux à avoir été témoins sans aucun doute. Dans le Val-d'Oise, là encore, un pompiste a échappé, lui, à des coups de marteau. Un conducteur n'avait pas supporté de se faire doubler par une infirmière. Et puis en Haute-Savoie, cette fois, et on en parlait sur Europe 1, un déséquilibré a poignardé un jeune père de famille qui venait de le dépasser dans la file. Cet automobiliste, lui, était entre la vie et la mort lorsqu'il a été hospitalisé. L'or noir n'a jamais aussi bien porté son nom. Voici la conclusion de cet article du Figaro. Ombline, qu'est-ce qui vous fait tiquer
ça va être plus léger. Bon, alors je vous parle d'une liste, qui met en émoi cependant toute la ville de Strasbourg. C'est le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace qui en parle, puisque le journal a pu se procurer cette liste adressée donc par les services de l'Eurométropole de Strasbourg aux commerçants non sédentaires et forains, ceux qui comptent s'installer du 25 novembre au 26 décembre, place de la Cathédrale par exemple, place Kléber, place du Château. Elle s'intitule « Produits autorisés Strasbourg, capitale de Noël 2022 ». Quels produits les marchands seront autorisés à vendre au... On va jouer ensemble.
Allez, c'est parti, jouons.
Les bonnets d'hiver et une aumônière, à votre avis.
Est-ce que c'est autorisé?
Autorisé ou pas autorisé?
Oui. Bah, j'imagine que ça dépend si c'est fabriqué dans la région. Très attentifs aux produits régionaux.
Allez-y, oui. Alors oui, effectivement.
Alors, oui ou non? Je dirais non.
Ah non. Bien, autorisé.
Ça commence bien.
Les casquettes et les ponchos.
Non, non plus.
Pas bien, non, pas bien. Les articles de Noël pour chiens et chats, tiens, à votre avis?
Non, je pense pas.
Comme ça. Bonne question.
Pas bien.
J'ai deux points là déjà.
Ça c'est non. Vous n'allez pas pouvoir gâter moustache, griffouille et caramel. Bon.
Moustache.
Les tirelires et les kits de broderie. Alors.
Ça c'est autorisé, oui.
Bah oui, okay. Bien, bon, évidemment. Bien. Une liste qui, vous l'imaginez bien, fait beaucoup râler. La mairie se justifie en disant vouloir exclure tous les articles qui ne sont pas fabriqués en Alsace, mon cher Alexandre.
Ben,
c'est tout
logique.
À fait ça et qui ne respectent pas les valeurs de Noël. Donc, à votre avis, la tartiflette?
La tartiflette n'est pas alsacienne.
Bah non, donc c'est la Munstiflette.
La Munstiflette.
Et pour accompagner la alors c'est le Munster, Munstiflette.
La Munstiflette, oui.
Une coupette de champagne, c'est faite.
Bah,
avec modération,
non,
oui.
Non, c'est pas.
Bah non. Non. Pas autorisé.
Plus à l'ouest quand on est en Alsace.
Voilà. Il faut du crémant et pour être tout à fait exact, en fait, le champagne pourrait s'en sortir après le tollé provoqué par son interdiction. La ville de Strasbourg promet d'en discuter. Donc pas de pop-corn, pas de donuts et enfin les crucifix devenus les croix JC. Les croix JC seront vendues sous réserve, comme les cravates et les cendriers. Donc voilà, les discussions ne sont pas encore fermées. Alors nous sommes le 12 octobre, je crois, record battu en 18 en termes de diffusion de Maria Carré.
Ah oui.
2 mois avant Noël. On est bien. Les produits interdits au marché de Noël de Strasbourg sur le site des Dernières Nouvelles d'Alsace relayées dans la presse nationale ce matin.
Bon, à moins qu'un astéroïde ne s'en charge pour nous éradiquer tous, Dimitri, quels sont les risques? Vous avez lu une étude scientifique ce matin, une évaluation. Hein.
Exactement, et ce matin, le magazine Slate se pose justement la question de savoir quelle est la réelle menace des astéroïdes sur Terre. Alors, pour les humains tout d'abord, à la manière des dinosaures, vous vous doutez bien qu'un astéroïde qui frapperait notre planète serait dévastateur. Selon vous, Ombline Alexandre, à partir de quelle taille un astéroïde serait inquiétant pour l'espèce humaine?
Alors, on va parler dans
je crois que ça va très vite en termes de diamètre.
Vite, ouais.
C'est quelques dizaines ou centaines de mètres. Dizaines de mètres, non?
Vous avez bon. Eh bien, selon la NASA, toute roche spatiale mesurant au moins 140 mètres de diamètre est un véritable danger si elle entrait en collision avec la Terre. Et je vais même aller plus loin. Selon des astrophysiciens, à partir d'un kilomètre de large, un astéroïde percutant la planète déclencherait probablement la fin de l'espèce humaine. Et seuls de très petits animaux auraient une chance de survivre. Pas très rassurant, hein, puisqu'un kilomètre de large dans le monde spatial, ça fait vraiment très très peu. Mmh. Et pour la planète Terre, alors, Ombline Alexandre, est-ce qu'un astéroïde pourrait la détruire, selon vous?
Bah, à la détruire totalement, donc la faire exploser.
Oui. Bon, on serait plus là pour le voir de toute façon.
Non, c'est non, ça. Le diamètre dépasse
là,
peut-être
plus,
les kilomètres.
Un peu plus gros, oui, sans doute.
Eh bien, la réponse, c'est que oui, la planète pourrait être détruite, mais il faudrait que le corps céleste soit au moins aussi imposant que la Terre. D'ailleurs, notre planète n'en est pas passée très loin au cours de son existence, puisqu'un objet plus gros que Mars a frappé notre planète sans pour autant, bien sûr, la détruire, vous doutez bien. Collision qui avait d'ailleurs entraîné la création de la Lune. Alors bref, pour conclure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les astéroïdes, ben, il faut plutôt les éviter. Ce matin, je suis bien content de savoir qu'on arrive désormais à les dévier.
Oui.
Bon, a priori, merci, ils sont sur vie de près. L'idée étant de les voir arriver de loin.
C'est ça. Et les anticiper un peu plus. Voilà.
Bon.
Merci.
Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien pour le moment. 2 octobre, tout va bien.
Voilà. Merci Dimitri, vous nous rassurez. C'était le pressing et on se retrouve dans un instant avec la partition de John Williams sur Europe 1.
6h20, votre partition, Omblin. Il est l'un des plus grands compositeurs de bandes originales de films. John Williams ne compte pas pour rien dans la légende de Hollywood.
La musique de Star Wars, Alexandre, hein, pour donner le ton, ce générique épique, reconnaissable entre tous. John Williams réhabilite les grands orchestres du cinéma hollywoodien et pourtant à l'origine, le père de Star Wars, George Lucas, ne souhaitait pas cette grande forme orchestrale, mais plutôt des partitions plus contemporaines.
John Williams, il connaît parfaitement les codes de la musique classique, hein, mais c'est le jazz, c'est dans le jazz en réalité qu'il fait ses gammes.
Un pianiste au talent fou avant de devenir compositeur à part entière.
On a reconnu Superman, hein. John Williams qui met un pied dans l'industrie du cinéma, on est à la fin des années 50. Hein.
Oui, employé comme petite main sur des bandes originales, il est également pianiste pour le compositeur Henry Mancini, à qui on doit notamment le thème de la Panthère Rose. Début de la période dorée, les années 70, John Williams se voit confier la composition de musique pour de plus grosses productions.
Son premier véritable succès à John Williams, eh bien, c'est Steven Spielberg qui va le lui offrir.
Le jeune réalisateur ne cache pas son admiration pour le musicien. Il s'adresse à lui pour la musique de son premier film, The Sugarland Express, en 1974. Une partition intimiste et une collaboration qui va sceller une amitié indéfectible. Pour son film suivant, Spielberg fait naturellement appel à John Williams. Il incarne musicalement la menace d'un requin aussi invisible à l'écran qu'impitoyable. Alors les adeptes de la musique du compositeur russe Stravinsky reconnaissent d'ailleurs l'influence de son Sacre du printemps dans la composition des Dents de la mer.
Début des années 80, voici qu'arrive une nouvelle icône avec son cuir et son fouet au son des cuivres du London Symphony Orchestra.
Enregistrement dans les studios Abbey Road à Londres, John Williams accompagne les pas d'Indiana Jones à la réalisation. Steven Spielberg, toujours, et c'est George Lucas qui produit à la clé une nouvelle récompense après avoir empoché celle pour la musique épique, qu'on a entendu un petit peu plus tôt, la musique de Superman.
Alors, un an plus tard, les succès s'enchaînent. La bande originale d'E.T. l'extraterrestre lui vaut le triplé Oscar, Golden Globe, Grammy Award.
Alors moins de cuivre et de courses-poursuites, plus de cordes frémissantes et d'harpes célestes, John Williams assoit son statut d'héritier des grands compositeurs de l'âge d'or d'Hollywood.
Alors en parallèle, ça ne l'empêche pas de continuer à composer des pièces classiques. Hein.
Oui, il est le chef d'orchestre du Boston Symphony Orchestra et c'est à lui qu'on s'adresse pour les grands événements comme la célébration du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Dans les années 90, en marge de ses activités de chef d'orchestre, pour celui de Boston, mais aussi pour le Los Angeles Philharmonic, John Williams offre à son ami Steven Spielberg sans doute la plus belle mélodie de sa carrière. Une partition bouleversante à la hauteur de l'émotion qu'il a ressentie lorsqu'il a vu la première fois les images de la liste de Schindler. avec au violon Itzhak Perlman, le thème du film La Liste de Schindler, récompensé notamment par un Oscar en 1994. La musique de John Williams sera jouée ce soir à la scène musicale près de Paris.
Merci Ombline, 6h25 sur Europe 1. Très bon réveil avec nous. Après le journal d'Alban Le Prince, rendez-vous avec l'Interview Éco. Votre pouvoir d'achat, il diminue avec l'inflation. Eh bien, une étude révèle que la flambée des prix aggrave aussi les découverts à la banque. À 6h40, je recevrai le porte-parole de Panora Bank qui publie cette étude.
Et puis avant 7h, la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une ce matin, ça ne s'arrange pas dans les stations-service. La raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, à son tour à l'arrêt depuis une heure. Les arrêtés de réquisition du gouvernement sont prêts mais pas encore publiés. Réquisitionner, un acte éminemment politique. Explication de Jacques Serret du service politique d'Europe 1 dans ce journal. À suivre également, l'inquiétude de vos commerçants sur les marchés. Ils commencent eux aussi à manquer de carburant. Et puis, la présence militaire de la France renforcée sur le flanc est de l'OTAN, des chars Leclerc envoyés en Roumanie alors que la Russie a encore frappé hier en Ukraine. Le journal de 6h30 présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Allons-nous manquer de nourriture à cause de la pénurie de carburant ? C'est une vraie question que l'on peut se poser ce matin car après 3 semaines de grève dans les raffineries et dépôts, cela devient chaque jour plus compliqué de faire le plein, notamment dans les Hauts-de-France et en région parisienne où sur les marchés on craint la panne sèche. Le reportage de Wilfried de Villers.
Un tout petit quart de plein, voilà ce qu'il reste dans le réservoir du camion de Christophe.
4 jours de marché, plus un approvisionnement à Rungis, il n'y a plus de gasoil. Quoi. On va jusqu'à samedi, dimanche, terminé après.
Après, c'est la panne sèche pour le maraîcher. Sous sa casquette, le regard désabusé, il explique faire une 60aine de kilomètres les jours de marché. Pour trouver de l'essence, tout se joue bien souvent en pleine nuit, du moins quand les stations ne sont pas vides.
À 4h, 4h30 du matin, voir s'il y a du gasoil. Mais quand il n'y aura plus de gasoil pour nous, bah, on restera à la maison, on ne pourra pas faire autrement. Ou il faut sélectionner nos marchés. Puis venir sur certains marchés la semaine pour éventuellement garder les week-ends pour pouvoir travailler. Parce que si ça continue comme ça, on va pas tenir longtemps. Quoi.
Une baisse de son activité, c'est aussi ce que craint Aude. Elle est maraîchère et productrice dans les Yvelines. Sur son exploitation, ses cuves de gazole essentielles pour ses tracteurs sont complètement vides. La faute à un retard de livraison.
Si les réservoirs ne sont pas pleins, on va se retrouver à devoir limiter notre activité pendant 2 jours ou 3 jours. Repousser le travail, manquer de marchandises sur les points de vente, avoir du mal à livrer les points de vente. Voilà.
Jamais la maraîchère n'avait connu une telle situation de pénurie. Sans solution à court terme, elle ne pourra bientôt plus assurer ses objectifs de production.
Wilfried de Villers. Alors l'exécutif hausse le ton hein, et se prépare à réquisitionner les salariés de 2 dépôts de carburant Esso ExxonMobil. Pourquoi pas chez Total ? Eh bien parce que les syndicats majoritaires d'Esso et la direction ont trouvé un accord. La CGT dénonce une entrave au droit de grève. Conséquence, la mobilisation s'est étendue ce matin à 5h à la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique, la 2e de France en solidarité aux grévistes hein, d'Esso ExxonMobil. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, ces réquisitions, c'est un pari très risqué pour le gouvernement, notamment en raison du calendrier politique. Mais l'objectif est clair pour l'exécutif, c'est reprendre la main.
Oui, en apparence, hors de question pour Emmanuel Macron de laisser prospérer cette crise, car vendredi dernier, il y a 5 jours, le chef de l'État déclarait déjà que le gouvernement était pleinement mobilisé. « Je sais l'inquiétude qu'il y a chez beaucoup de nos compatriotes », expliquait alors le locataire de l'Élysée depuis Prague. Mais depuis, rien n'a changé. Pire, la situation s'est même aggravée par endroits. Manque d'anticipation, erreur d'appréciation dans la prise en considération de cette crise. Le constat est sans appel. Aujourd'hui, Emmanuel Macron renvoie la balle vers Elisabeth Borne. C'est elle qui est chargée de monter au front et d'annoncer des réquisitions. Cela en essayant de ne pas trop heurter les sensibilités de gauche attachées au droit de grève. La réquisition des personnels ne concernera donc que les dépôts Esso, mais pas ceux de Total, où l'exécutif veut encore laisser le temps au dialogue social. Et pour cause, à 4 jours de la manifestation contre la vie chère initiée par la nouvelle alliance de gauche qui réclame la taxation des super-profits, il s'agit pour l'exécutif d'essayer de ne pas aggraver le climat social. À ce rythme, le retour à la normale n'est donc pas pour tout de suite.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et on apprend ce matin qu'au dépôt Esso ExxonMobil de Gravenchon près du Havre, la mobilisation a repris cette nuit.
Europe 1, 6h34, le G7 promet de demander des comptes à Vladimir Poutine.
Une déclaration à l'issue d'une réunion hier après-midi avec la participation de Volodymyr Zelensky au lendemain de multiples bombardements sur l'Ukraine qui ont fait au moins 19 morts et 105 blessés.
Autre réaction cette fois-ci de la part de la France. Paris va renforcer sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN.
Décision prise lundi soir mais annoncée hier. Des avions Rafale en Lituanie, une compagnie d'infanterie légère en Estonie, des blindés en Roumanie mais aussi un escadron de Charles Leclerc. William Molinier, c'est une sacrée organisation pour l'armée de terre.
Oui, il s'agit d'une douzaine de chars Leclerc à acheminer jusqu'à Tchinkou, au centre de la Roumanie. Un char très mobile, l'un des plus performants au monde, fleuron de la cavalerie française. Selon nos informations, les logisticiens de l'armée de terre s'y préparent depuis plusieurs semaines. Maintenant, 60 tonnes d'acier et de blindage, impossible de les faire rentrer dans des avions de transport type A400M ou Antonov. Reste l'option du train ou de la route, 8 à 12 jours selon nos informations pour la première option, 16 jours par la voie ferrée, non sans avoir obtenu au préalable les autorisations de tous les pays traversés, y compris pour les pièces de maintenance et le personnel afférent. Le ratio est de l'ordre d'un logisticien pour 3 à 4 combattants à Tchinkou. Une base militaire est en construction. Elle doit permettre d'accueillir plusieurs milliers de militaires interalliés au niveau de la brigade. C'est jusqu'à 6 fois plus que le nombre de forces de l'Alliance déployées aujourd'hui dans le pays.
William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.
Il sera justement question de la guerre en Ukraine ce soir sur France 2, Emmanuel Macron, invité de la nouvelle émission de la chaîne.
Alors ce soir, première partie consacrée aux questions internationales. Deuxième volet déjà prévu le 26 octobre, cette fois-ci pour parler de politique intérieure.
La réforme de l'assurance chômage, elle est adoptée.
Oui, feu vert des députés. Hier, la majorité a pu compter sur le soutien des Républicains pour faire passer le projet de loi qui prévoit notamment la possibilité de baisser les allocations chômage quand le marché du travail se porte bien et de les augmenter dans le cas contraire.
Si vous êtes propriétaire, vous avez sûrement remarqué au moment de payer que votre taxe foncière a augmenté.
En plus, 4,7% en moyenne cette année dans les 200 plus grandes villes françaises. C'est ce que nous apprend ce matin l'Observatoire national des taxes foncières de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.
Un petit détour au théâtre, Alban, pour terminer ce journal.
Évidemment, direction le théâtre de l'Atelier à Paris pour applaudir Agnès Jaoui. C'est la femme la plus récompensée au César. 6 statuettes au total. Mais pour une fois, ce n'est pas en tant qu'actrice qu'on vient la voir, mais comme chanteuse lyrique. Elle propose Dans mon salon, un spectacle musical que l'on peut définir avec deux mots, populaire, festif, Marie Jiquel.
Lumière tamisée, tapis, canapé, verre de vin pas loin, au milieu de cet orchestre décontracté, la figure solaire d'Agnès Jaoui, formée au chant lyrique dans sa jeunesse.
Avant, j'avais un peu scrupule, parce que c'est pas mon métier principal, et que j'ai énormément d'admiration et de respect pour les chanteuses et les chanteurs qui ne font que ça, parce que je sais quel sacerdoce c'est, donc je me sentais un tout petit peu gênée. Et maintenant, je me sens moins gênée, notamment aussi parce que, justement, ça n'est pas qu'un spectacle lyrique, c'est mélangé.
L'actrice et chanteuse a opté pour une programmation éclectique, des mélodies jazzy d'Amérique latine à des airs de musique classique de Rossini ou Bach.
Je trouve souvent que dans la musique classique, il y a justement un sérieux, des codes, il faut applaudir là mais pas là, on ne sait jamais très bien. Et ça peut éloigner un certain public de la beauté de la musique.
L'alchimie entre la scène et le public opère, on peut danser et chanter en étant sûr de ne pas déranger les voisins.
Marie Jiquel, Agnès Jaoui prendra ensuite la direction de Grande-Synthe, Franconville, Antibes ou encore Vitré.
Merci Alban Le Prince, 6h38, très bon début de journée sur Europe 1. Vous connaissez peut-être des fins de mois difficiles, il vous arrive peut-être également d'être dans le rouge à la banque, et bien vous n'êtes pas le seul. Dans ce cas, l'inflation aggrave les découvertes bancaires. C'est le résultat d'une étude Panora Bank. Son porte-parole, Basile Duval, sera avec nous dans un instant.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'épargne, vous être utile.
L'inflation rabote votre pouvoir d'achat. Elle complique aussi de plus en plus vos fins de mois. Le comparateur de banque panorabank.com vient de publier une étude. Elle révèle les difficultés financières croissantes de nombreux Français. Votre invité Alexandre, c'est Basile Duval, porte-parole de Panora Bank.
Bonjour Basile Duval.
Bonjour, bonjour à tous.
Premier enseignement de votre étude, l'inflation aggrave les découvertes bancaires. On apprend que près d'un Français sur deux a son compte en banque dans le rouge au moins une fois par an. Hein.
Tout à fait, près d'un Français sur deux a son compte bancaire dans le rouge au moins une fois par an. C'est un chiffre
en croissance par rapport à l'année dernière.
Et pour certains d'entre eux, c'est même beaucoup plus fréquent, ce découvert.
Tout à fait. Près d'un Français sur cinq va être en situation de découvert au moins une fois par mois.
On ne se retrouve pas toujours à découvert pour la même raison. Quelles sont les explications? Qu'est-ce que révèle votre étude justement
Alors,
à ce sujet?
Les Français déclarent plusieurs raisons. Il y a une raison particulière, ça va être l'inflation. C'est près de 34% des Français qui déclarent être à découvert à cause de l'inflation, car ils n'arrivent pas à compenser la hausse des prix.
Mmh. Et d'autres raisons, hein, des accidents de parcours, hein, dans
Tout
les dépenses.
Fait. Des dépenses non prévues, on peut penser à un appareil électroménager à remplacer, à un véhicule qui tombe en panne. Il y a également le fait d'être dans une situation financière qui va être difficile, oui. ou bien de ne pas faire attention. C'est près de 24% des Français qui sont à découvert car ils ne font pas attention à leur compte bancaire.
Votre étude, elle nous donne une idée du montant moyen du découvert des Français. Il est de quel ordre?
Alors, il est de plus de 200 euros. C'est un chiffre qui est en croissance également de plus de 3% par rapport à l'année dernière.
D'accord. Si on va un peu plus dans le détail, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Hein. Il y a les petits et les gros découverts. Là aussi, c'est ce que met en lumière votre étude. Hein.
Il y a les petits, les gros découverts. Cette année, on constate que les découverts de plus de 500 euros sont en croissance également. On est de l'ordre de 12 à 13% des Français qui sont à découvert de plus de 500 euros, voire certains Français de plus de 1000 euros.
De plus de 1000 euros.
C'est des découverts qui sont très importants.
Ouais. Le découvert en bancaire arrive, Basile Duval. Comment on fait face? Je veux dire, tout le monde ne décroche pas le téléphone pour appeler sa banque, hein, loin de là.
Loin de là, et c'est regrettable. Il faut contacter son banquier pour échanger sur cette situation financière et essayer de trouver un terrain d'entente.
Quelle est la proportion des Français, justement, qui...
Alors, c'est près de 30% des Français qui ne contactent pas leur banque.
Qui ne contactent pas leur banque.
Qui ne contactent jamais leur banque face à un découvert.
Il y a des découverts évitables. Hein. On a tendance parfois, c'est vrai, à ne pas garder un œil assez vigilant sur ses relevés de compte.
Tout à fait. Consulter son compte bancaire plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, c'est un conseil de base qu'on peut donner pour éviter d'être à découvert. Peut-être qu'on va avoir un prélèvement auquel on ne pense pas et qui va nous amener dans une situation de découvert. Donc, consulter son compte bancaire, c'est un conseil de base qu'on peut donner pour éviter de se retrouver en difficulté.
Ce que vous nous dites, en fait, c'est que dans tous les cas, il faut prendre les devants. Il ne faut pas attendre.
Tout à fait. Il faut prendre les devants. Il y a quelques petits conseils qu'on peut donner. Par exemple, mettre en place des alertes, des notifications sur son compte bancaire en cas de solde faible, voire négatif. Voilà, c'est des petites astuces pour éviter une situation qui peut être plus ou moins embêtante.
On paye des frais pour avoir l'autorisation d'un certain montant de découvert, hein, des frais annuels. Ils sont de quel montant en général?
Alors, ça va être des frais qui sont variables.
Oui.
Y a plusieurs composantes. Vous allez avoir les agios, vous allez avoir les commissions d'intervention, et il y a d'autres frais qui peuvent être les lettres d'information pour compte débiteur non autorisé. Tous ces frais-là, ils peuvent être facturés selon les banques d'une manière plus ou moins importante. Si on prend l'exemple des commissions d'intervention, ils vont être facturés en moyenne autour de 8 euros. Certaines banques ne les facturent pas, mais une immense majorité des banques vont les facturer 8 euros par commission.
Ouais, alors le problème, là, c'est un contrat effectivement qu'on passe avec son banquier, c'est que si on dépasse le plafond autorisé,
Tout
là,
à fait.
C'est la spirale de l'explosion des frais de dépassement. Hein.
Tout à fait. On va tomber en découvert non autorisé, donc on va être au-delà de la limite à laquelle sa banque vous autorise à être. Et donc là, effectivement, il va y avoir des frais supplémentaires, donc les commissions d'intervention, la lettre d'information pour vous avertir que vous êtes au-delà de la limite. Et c'est des frais qui peuvent grandement alourdir votre facture.
Votre étude, elle mesure aussi la perte de pouvoir d'achat, Basile Duval. Une majorité des répondants disent qu'il a baissé depuis le début de l'année. Une majorité, c'est beaucoup plus que ce que répondaient les répondants, les personnes interrogées l'année dernière, hein, puisque c'est votre baromètre est annuel, donc vous avez la comparaison.
Tout à fait, c'est plus de 60% des Français qui déclarent avoir perdu en pouvoir d'achat et en capacité financière depuis le début de l'année, alors que l'année dernière, à la même période, ils étaient que 36% à répondre qu'ils avaient perdu en pouvoir d'achat.
Vous avez identifié les principaux postes de dépenses des foyers, justement, pour expliquer ces difficultés?
Alors, évidemment, ça va être lié à l'inflation. Les Français déclarent plusieurs postes de dépenses liés à l'inflation et qui impactent fortement leur pouvoir d'achat. Premièrement, il va y avoir l'alimentation. Deuxièmement, la hausse des prix des carburants.
Oui,
on en parle quotidiennement.
Évidemment.
Évidemment. Et enfin, la hausse des prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité.
Basile Duval, vos conseils à nos auditeurs et auditrices, lorsqu'on est en difficulté, que faire? Je veux dire, quand on est en situation de découvert à la banque, en préventif, et bien sûr, on consulte son compte en banque, mais
bien
voilà,
sûr.
Quand l'accident arrive, on fait quoi?
Alors, quand l'accident arrive, c'est un conseil simple, c'est aller voir sa banque, contacter son banquier, peut-être que selon la situation, selon votre profil, vous pourrez trouver un arrangement. Voilà, ça ne coûte absolument rien de contacter sa banque.
Oui.
C'est un conseil de base.
Il y a des alertes également qu'on peut installer, il y a des applis.
Tout à fait, des alertes. On peut, depuis son espace client, en quelques clics, configurer des alertes pour être averti si jamais votre compte bancaire est à un solde faible.
Bon, et on évite autant que possible les prêts à la consommation, hein, c'est ce que vous dites. Hein. C'est vrai que c'est souvent la porte d'entrée dans le surendettement. Hein.
Tout à fait, il y a 5% des Français, ce qui est un chiffre considérable, qui déclarent faire un crédit consommation pour compenser la hausse des prix liée à l'inflation. Mmh. C'est une situation, si on peut se le permettre, à éviter.
Merci Basile Duval,
merci.
Porte-parole de Panora Bank, comparateur de banques et de services bancaires. Vous venez donc de publier cette étude sur l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat et donc le compte en banque des Français. Merci à vous.
Merci.
C'était l'interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Europe 1, il est 6h48.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation du jour avec Anissé Mbida, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anissé.
Bonjour à tous.
En ce mois d'octobre rose, où l'on essaie de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, eh bien il arrive à un outil de prévention surprenant, une tomate censée lutter contre le cancer.
Oui, et c'est pas la seule chose surprenante, c'est aussi une tomate transgénique de couleur violette. Alors pourquoi violette? Parce qu'elle a été modifiée génétiquement pour accumuler encore plus d'antioxydants que les myrtilles, le chou rouge ou les aubergines. Et d'après une étude, consommer cette tomate réduirait effectivement les risques de cancer. Ça fait plusieurs années qu'elle a été conçue, mais elle vient tout juste de recevoir l'aval des autorités sanitaires américaines. Sa commercialisation va donc commencer avec un argument tout trouvé, la lutte contre le cancer. Ce qui est nouveau, parce que jusqu'ici, les OGM ciblaient plutôt les agriculteurs en leur promettant des meilleurs rendements, mais c'est la première fois qu'on courtise directement le grand public. Donc je vous pose la question, hein, est-ce que vous seriez prêt à consommer des OGM s'il y a des bénéfices pour la santé?
Ça, c'est une question piège. Moi, je voudrais voir ce qu'il découle des études. Peut-être faut voir. Faut pas
D'accord.
dire non comme ça.
J'attends des études.
Si on parle du rapport bénéfice-risque, la réponse me paraît logique. J'aurais tendance à dire oui. En revanche, c'est la semaine du goût, cette semaine.
Ah oui, c'est vrai qu'on parle pas du goût.
Et pour moi, c'est le goût qui prime.
Quel goût elle a, cette tomate violette?
En tout cas, moi, je me dis que si elle soigne le cancer, pourquoi pas?
Voilà.
Mais si c'est simplement pour avoir des antioxydants, pourquoi pas se gaver de choux ou de myrtilles?
Oui, et prendre en fait des fruits et des légumes naturels, effectivement. La culture d'OGM à Nice n'est pas censée d'ailleurs être interdite?
Si, en principe, mais il y a toujours eu des dérogations. Alors, pour l'instant, cette tomate n'est autorisée qu'aux États-Unis. Mais en Europe, on a le droit de cultiver du maïs transgénique qui résiste à des insectes. Et plusieurs OGM cultivés ailleurs ont aussi le droit d'être commercialisés chez nous. C'est le cas du soja, du colza ou de la betterave, par exemple. Il y a juste l'étiquetage qui est obligatoire. Et ce n'est qu'un début parce que l'Union européenne prépare une réglementation qui devrait autoriser la culture de plantes dont le code génétique a été mélangé à celui d'espèces proches. L'objectif, c'est d'obtenir des variétés qui sont plus résistantes aux sécheresses et aux inondations actuelles. Donc il faut s'attendre à un retour en force des OGM, avec comme argument cette fois notre santé ou la lutte contre le réchauffement climatique.
Merci beaucoup, Anissa
Merci, Anissa.
Europe Matin.
6h50 sur Europe 1, les titres, c'est le journal permanent, Albin Leprince.
Un tiers des stations-service touchées par des pénuries en France et le mouvement de grève s'étend encore ce matin. La raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, la deuxième de France, se joint à la mobilisation à l'appel de la CGT qui dénonce une entrave au droit de grève. Réaction alors qu'Elisabeth Borne a annoncé préparer la réquisition de salariés d'Esso ExxonMobil. Malgré la menace, la mobilisation est reconduite ce matin en Normandie. Sandrine Rousseau va-t-elle être placée sous protection policière? Le ministère de l'Intérieur étudie cette possibilité car la députée écologiste est la cible de nombreuses menaces de mort, notamment sur Twitter. Et puis après des années de controverses, le Sacré-Cœur, l'un des monuments le plus visités de Paris et propriété de la capitale, va finalement être classé au titre des monuments historiques.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
Très bon début de journée sur Europe 1, votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Italie avec notre correspondant. Bonjour Antonino Gallofaro.
Bonjour.
De quoi parle ce matin la presse italienne ?
De cette action en justice pour défendre la naissance de Vénus, de Botticelli. Les offices contre Jean-Paul Gaultier, c'est le titre de la Repubblica. Le journal explique que la galerie veut défendre l'image du chef-d'œuvre de la Renaissance exploité par le styliste français. Quel est le problème? La Vénus de Botticelli apparaît sur les habits de Jean-Paul Gaultier sans autorisation, explique il Corriere della Sera, qui affirme que l'avertissement lancé par le musée en avril dernier a jusqu'ici été ignoré, d'où l'action légale de la galerie lancée aujourd'hui. Que personne ne touche la Vénus de Botticelli, prévient Io Donna. Le magazine rappelle la loi, l'utilisation des images qui appartiennent au domaine public italien est soumise à autorisation et contre-paiement. Règle, ajoute le magazine, que Jean-Paul Gaultier aurait ignoré.
Nous sommes maintenant aux États-Unis avec vous, Alexis Guilleux. Qu'est-ce qui fait la une des journaux américains?
Eh bien, c'est l'annonce de la réévaluation de la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Fâché par la décision du royaume de réduire la production de pétrole, Joe Biden s'est montré ouvert à des mesures de rétorsion proposées par le Congrès, notamment l'arrêt de vente d'armes, explique le New York Times. L'annonce des pays de l'OPEP+, la semaine dernière, de diminuer leur production a été vécue dans l'entourage du président comme un camouflet personnel, souligne le Washington Post. Car Joe Biden s'est rendu cet été à Riyad dans l'espoir d'améliorer la relation avec le royaume. Aux États-Unis, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le choix saoudien de prendre le parti de la Russie dans la guerre en Ukraine. Le Wall Street Journal rappelle aussi que c'est une mauvaise nouvelle pour les démocrates à un mois des élections de mi-mandat. Alors que Joe Biden n'est pas certain de conserver sa majorité au Congrès, la vie chère et les prix de l'essence restent des thèmes centraux de la campagne.
Dernière étape ce matin, le Royaume-Uni avec Anaïs Cordoba. Anaïs, les gros titres de la presse britannique.
Eh bien, ce matin, l'ensemble de la presse britannique revient sur l'annonce de la date du couronnement du roi Charles qui aura lieu le 6 mai prochain. Le Times cite le communiqué de Buckingham Palace. La cérémonie reflétera le rôle du monarque aujourd'hui tout en étant empreinte du faste et des traditions anciennes. Pas plus de détails officiels pour l'instant, mais selon les informations du Daily Telegraph, en pleine crise du coût de la vie, ce couronnement devrait être plus simple que celui d'Elisabeth II, qui avait duré 4 heures avec 8000 invités. Cette cérémonie devrait, elle, durer environ 1 heure en présence de 2000 personnes, relaie le quotidien. Le couronnement aura lieu à l'abbaye de Westminster, ajoute le Sun, qui détaille « Charles devra faire le serment de gouverner le Royaume-Uni, mais aussi de défendre la foi anglicane ». Camilla sera couronnée à ses côtés le même jour.
Merci Anaïs Cordoba, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, la suite d'Europe Matin. Dimitri Pavlenko, à tout.
Europe Matin, 6h57, belle matinée avec Europe 1.
Dimitri Pavlenko est avec vous. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour. Bon,